Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage spécial confinement jour 9. Une émission où dès le début de la phase 3, nous nous sommes dit, allez, nous bousculons nos programmes. Et mieux que de l'avoir fait, nous l'avons surtout dit. Contrairement à Mélanie Gomez qui nous précède dans l'émission santé.
Europe 1, plus que jamais, se mobilise pour vous accompagner. 7 jours sur 7, nous bousculons. Oh, 7 jours sur 7, nous bousculons. Oh, j'arrive pas à le dire. 7 jours sur 7, nous bousculons. Oh, j'arrive pas à dire bousculons.
Bousculer ces programmes, ce n'est pas évident. Mais vu la situation inédite que nous vivons, c'est nécessaire. C'est pourquoi, chaque après-midi, de 16h à 18h, la grande battle des journalistes continue au service de votre culture G et surtout en ce moment de votre quotidien. Celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus utile sera élu chroniqueur du jour. Sous l'œil de ma précieuse et blagueuse comparse, Eva Roth. Certes, son moral n'est pas aussi bon qu'il y a 15 jours quand elle chantait encore dans les bars de Pigalle. Avec Chanel, elle est l'autre emblème du chic français. Bonjour Eva Roth.
Bonjour Mathieu. Vous êtes complètement fou, quoi. Oui, mais on continue à se marrer, franchement. Allez.
Qu'est-ce qu'on regarde sur les écrans à la télé ce soir? La question pouvait paraître anecdotique il y a encore deux semaines. Elle est désormais cruciale, d'autant que vous vous occupez désormais de concocter un programme à toute la famille.
Oui, on va encore vous donner des idées de conseils pour les petits, pour les ados, et puis évidemment pour les grands avec des programmes familiaux que vous pouvez partager.
Alors Eva, autant question média, vous êtes incollable, autant en cuisine, votre compétence est, disons, par euphémisme, plus discutable.
Oh,
comme avait pu le constater le chef Olivier Rollinger, la fois où vous aviez tenté de l'avoir au bluff.
Demain, je fais un crumble framboise.
Oui, mais c'est pas la saison.
Mon conseil du jour, Eva, évitez de faire la maline avec notre invité du jour.
Ah, oui.
Il est encore moins patient qu'avec les baltringues qu'Olivier Rollinger. Bonjour Philippe Etchebest. Merci beaucoup d'être avec nous en ligne, évidemment. Ce soir, c'est Top Chef sur M6. Alors là, non seulement on regarde, mais on va peut-être avoir le temps de reproduire les recettes pour une fois avec le temps qui est le nôtre désormais. Ou alors le niveau est trop élevé cette année.
Très honnêtement, le niveau est quand même un peu élevé.
Oui.
Et surtout dans les conditions actuelles, je pense que tous les gens n'auront pas la même marchandise à la maison. Hein. On ne travaille pas sur les mêmes bases. Hein. Entre Top Chef et ce qui se passe là, c'est quand même assez différent. Mais ça peut quand même donner des idées. Voilà.
Est-ce que vous, vu le niveau des candidats qui augmentent chaque année, est-ce que vous, ça vous oblige à jouer Philippe Etchebest, le méchant, ou est-ce que, parce que c'est difficile de les critiquer, ils sont de plus
ah
en
oui.
plus forts.
C'est ça. Non, mais je ne joue pas,
que je veux dire.
Déjà.
Vous êtes
déjà,
méchant.
Je ne joue pas. Et ensuite, c'est vrai que, on a toujours, même si le niveau monte, effectivement, on a toujours des conseils à apporter par rapport à notre expérience. Il y a toujours quelque chose à amener, mais c'est vrai qu'aussi, les candidats nous apportent à nous, membres de jury, des choses nouvelles. C'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un vrai échange.
Oui, j'ai l'impression que personne ne se lasse de Top Chef, ni les téléspectateurs, ni ceux qui y participent, comme Michel Sarand nous le disait. Vous avez toujours autant de plaisir à présenter cette émission, à participer à cette émission.
Oui, oui, c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, en plus, entre nous, depuis, ça fait 5 ans maintenant, donc il y a beaucoup de complicité. Et puis l'arrivée de Paul Perret aussi a été un renouveau quelque part. C'est vrai qu'il a mené notre expertise aussi, notre approche culinaire qui était vachement intéressante. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Paul. On a beaucoup échangé aussi, et c'est notre diversité aussi qui font justement cet ensemble cohérent entre nous tous. Donc, c'est génial. C'est vrai qu'on prend toujours autant de plaisir, et ça tant mieux.
Alors, Philippe Etchebest, on va parler de Top Chef. Vous allez nous raconter aussi votre confinement, la manière dont vous le vivez. Mais d'abord, je vous présente nos concurrents, car oui, depuis août dernier, maintenant, on a avec la direction d'Europe 1 et afin de secouer un peu les feignasses, les journalistes de cette station, j'ai lancé Cauchemar dans la rédaction. Le principe est le même que Cauchemar en cuisine, sauf que je ne vérifie pas les casseroles, mais les sujets. Et comme vous, chaque soir, croyez-moi, je leur dis...
Je me fais comme ça, je prends votre équipe, j'essaie de vous sortir de la merde.
Premier concurrent en lice pour le titre
ça.
De chroniqueur du jour, on pourrait le définir comme un Philippe Etchebest raté. Car oui, bien sûr, Mathieu Charrier a réussi. Il a réussi, il est vice-chef adjoint délégué d'un service culture qui compte 5 salariés dont lui. Pourtant, son rêve était ailleurs, ouvrir son resto qu'il aurait appelé Chez Charrier. Une table conviviale et sans chichi où il aurait pu évoquer avec les clients son sujet de prédilection, le cours de la crevette rose.
En fait, l'État devrait interdire aux grandes surfaces de faire de la publicité pour des produits étrangers.
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui achètent.
Nico, les crevettes roses, à 10 euros le kilo, c'est un prix de fou. Moi, mes crevettes roses, je les paye 3 ou 4 euros les 100 grammes.
Mathieu Charrier, bonjour.
C'est n'importe quoi.
Bonjour à tous. Je crois qu'en ce moment, vous pouvez la toucher à 2 euros le kilo à la criée, hein, la crevette rose. À mon avis, c'est le moment d'y aller. Alors, Mathieu, ne l'oublions pas, après les crevettes roses et le cinéma, la BD est votre troisième passion, le monde de la BD qui est en deuil, malheureusement.
Eh oui, puisqu'on a perdu hier l'un des plus grands dessinateurs français, monsieur Uderzo, et je vous raconterai des petites anecdotes sur ce monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, des choses que vous n'avez pas lues partout ce matin dans les journaux.
Votre rival, Mathieu Charrier, est également en ligne, sauf que lui, il a plus l'habitude, il a commencé au sport, il est désormais notre correspondant permanent sur la Côte d'Azur, comme lui dit souvent Mathieu Charrier.
T'as bien rebondi, mon salaud.
Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, je vous envoie du soleil.
Oh oui, alors pour tuer le temps pendant le confinement, vous nous proposez aujourd'hui de revisionner des classiques de votre région, se refaire l'intégrale du Gendarme de Saint-Tropez, avec néanmoins une surprise de taille, puisque vous allez nous parler du dernier volet du Gendarme qui avait été écrit, mais qui n'a jamais été réalisé.
C'est pas possible.
Et visiblement si c'est possible, vous nous confirmez ça Frédéric?
Eh oui, je vous confirme, le 7e volet de la saga n'a jamais été placé sur pellicule, n'a jamais été tourné, mais je vais vous raconter le scénario.
Et je crois que ça va, il n'est pas piqué des hannetons, comme on dit. Merci Frédéric. Voilà donc sur le ring cet après-midi, Charrier, Michel.
Le petit timide, le costaud maladroit.
Les présentations sont faites, l'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est, vous le savez, devenu une règle. Chaque jour que le confinement durera, nous prendrons des nouvelles d'une personnalité. Aujourd'hui, c'est le chef Philippe Etchebest qui est avec nous en ligne. Comment vous vivez votre confinement, Philippe Etchebest? Déjà, où êtes-vous?
Ben écoutez, je suis en Dordogne, je suis chez moi. Voilà, je bouge pas, je suis en famille. Et je suis à la ferme, donc on a des animaux à soigner aussi, donc il faut qu'on s'en occupe, on a une heure de Bordeaux. De toute façon, à partir du moment où on a su qu'il fallait fermer le restaurant, ça a été assez brutal d'ailleurs pour tous les restaurateurs de France. Voilà, il a fallu faire quelque chose, et puis nous on avait rien à faire sur Bordeaux, donc on est parti là où on vient le week-end, et on a une ferme avec des animaux à soigner, donc il faut s'en occuper aussi. Voilà, donc ça se passe bien, les journées finalement elles se passent assez vite, dans la mesure où on les structure aussi, et je crois que c'est important, et même pour les gens où qu'ils soient, de planifier leur journée, justement pour éviter de rentrer dans une routine, et de se fixer des règles, justement pour faire des choses. Moi, c'est ce que je fais, et c'est vrai que les journées elles passent finalement très très vite, quoi, hein. Beaucoup de choses à faire, et puis faire aussi ce que j'ai pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant, parce que je travaille beaucoup, et notamment de m'occuper de ma famille, un petit peu, leur cuisiner, faire des petits plats, ce que je fais rarement.
Ah bon, c'est pas vous qui cuisinez à la maison?
Je ne cuisine pas à la maison, mais j'y suis pas beaucoup à la maison.
Oui, c'est pour ça.
Là, je profite de ça, et puis en plus, je profite pour le coup de regarder Top Chef parce que je l'ai jamais regardé.
Ah, c'est drôle. Voilà,
et alors, vous trouvez ça pas mal comme émission? Ça se regarde bien.
C'est très très bien. Je trouve extraordinaire, celui qui gueule tout le temps, ils sont géniaux. C'est toujours pareil, cette espèce d'image qu'on a de moi, le chef qui gueule, machin. Bon, je pense que si je monte le ton, c'est jamais à tort, c'est pour des raisons valables, et c'est toujours pour rendre service et pour faire du bien derrière. Et il y a toujours une explication, quoi qu'il se passe. Alors, c'est vrai qu'on ne monte pas tout le temps, mais je m'efforce de débriefer à chaque fois qu'il y a eu quelque chose derrière, justement, pour justifier quelque part ou mon coup de gueule ou ma prise de position. Il faut que ce soit constructif quand même. Voilà, on montre effectivement les trucs un peu forts, parce que c'est comme ça, mais il y a beaucoup de pédagogie derrière malgré tout.
Vous le retrouvez ce soir sur M6 dans Top Chef. Philippe Etchebest reste avec nous pour nous parler gastronomie de crise. Ça tombe bien, on a autour de la table un certain nombre de fins gourmets. La preuve, Mathieu Charrier, votre plat préféré?
Ah, j'adore la quiche.
J'ai fait une ce matin, vous voyez?
Ah,
c'est drôle.
Et quiche à quoi?
J'avais pas grand chose, j'avais des restes de jambon, j'avais un bout de fromage que j'ai râpé, un bout de comté qui est resté aussi, un peu avec des restes. J'avais un fond de crème fraîche, une demi-bouteille de lait, et puis comme on a des poules, j'avais des œufs, grâce à Dieu. Ah. Et puis j'ai pu faire une pâte et j'ai fait une quiche ce matin avec tout ça. Mais il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment avec ce que, et tous les petits éléments qui me restaient dans le frigo.
Ben voilà.
On redécouvre la simplicité en ces temps de confinement.
Et voilà.
Philippe Etchebest reste avec nous.
Europe 1.
C'est un monument de la bande dessinée qui nous a quitté hier. Albert Uderzo, le papa d'Astérix, est décédé. Il rejoint son cher René Goscinny. Mathieu Charrier, qu'il avait rencontré à plusieurs reprises, nous dresse le portrait d'un dessinateur qui a permis à la bande dessinée d'acquérir ses lettres de noblesse. Un moment de l'émission où Mathieu Charrier va marquer des points avant inévitablement d'en perdre, quand tout à l'heure nous parlerons du gendarme de Saint-Tropez et qu'il insistera pour nous faire sa tristement célèbre imitation de Louis de Funès. Oui, Cruchot croisé avec Jackie Chan. On croise les doigts pour que son hommage à Uderzo soit plus réussi que celui qu'il avait réservé à De Funès. Un hommage qui interviendra juste après The Clash, Rock de Casbah sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
De Casbah, c'était The Clash sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous me connaissez, chers auditeurs, je ne suis pas du genre à en faire des caisses, à établir des comparaisons exagérées, mais force est de le reconnaître aujourd'hui, au lendemain de la disparition du créateur d'Astérix, si l'histoire de la BD française ne devait se résumer qu'à trois noms, il y aurait René Goscinny, Albert Uderzo et Mathieu Charrier. Les deux premiers ont créé Astérix, le troisième est le journaliste qui, par ses récits glamour, a fait énormément pour la renommée mondiale et l'attrait du festival de la BD d'Angoulême, dont il est encore revenu cette année avec des étoiles dans les yeux.
Vous savez, Angoulême, c'est des bulles, vous savez, des sortes de grands chapiteaux à travers toute la ville, surchauffés, souvent il y a même de la condensation. Donc vous avez...
Ah oui, donc c'est propice au développement des germes.
Ah, c'est un peu propice au développement, mais c'est aussi ce qui fait le charme, c'est que c'est une bonne gastro, c'est vrai.
La ville se transforme en... Ah oui, on vomit, mais on vomit tous ensemble.
Et c'est ça qui est beau dans la bande dessinée.
C'est la magie d'Angoulême. Mathieu, il est toujours savoureux, évidemment, de se remémorer cette époque joyeuse où on pouvait échanger nos germes dans.
Quand je vais rentrer dans ma ville, je vais être reçu avec du goudron et des plumes. Vous en avez conscience.
C'est bien possible.
Ah, mais c'est pas pour
tout
demain.
Ce que vous méritez.
Donc...
Oui, c'est ça.
Alors, Mathieu, on rigole, mais un géant de la BD nous a quittés. Albert Uderzo n'est plus et vous aviez eu la chance de le rencontrer.
Oui, alors d'abord, je vais vous faire les éléments de biographie un peu classiques, mais vous vous rappelez qu'Albert Uderzo, il vient d'un milieu très très modeste. Il est né d'ailleurs avec 6 doigts à chaque main. C'est dire s'il était fait pour le dessin.
Ah, non, mais c'est vrai.
D'immigrés
tels.
C'est vrai. C'est totalement vrai. Il a été opéré à l'âge d'un mois. Il avait 6 doigts à chaque main. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça allait l'aider à tenir mieux ses points de couleur, mais en attendant, ça montre à quel point déjà il était fait pour le dessin. Alors, son papa était menuisier, sa maman femme de ménage. Vraiment, on ne roulait pas sur l'or chez les Uderzo. Ils se sont d'ailleurs installés à Clichy, en banlieue parisienne. Mais déjà, petit, il aimait dessiner. Et en fait, le déclic, il l'a eu en maternelle. La maîtresse lui demande d'illustrer une fable de La Fontaine. Ça s'appelle Le Loup, la Chèvre et le Chevreau. Elle demande ça à toute la classe. Et elle est tellement subjuguée par le dessin du jeune Uderzo qu'elle va le montrer à son mari. Et ce monsieur décide d'offrir une boîte de crayons de couleur au petit garçon. C'est avec cette boîte de crayons de couleur qu'il va commencer à dessiner tout petit. Donc voilà, je m'arrête là pour les éléments biographiques un peu classiques. Et maintenant, je vais vous dire comment lui racontait sa vie. Parce qu'effectivement, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et c'était vraiment à chaque fois un vrai moment de bonheur.
Alors déjà, concernant Astérix, évidemment, comment ils ont eu l'idée?
Quasiment un hasard total, il le disait comme ça. Au départ, en fait, avec Goscinny, il décide de créer un petit indien qui s'appelle Oumpapa. Ça marche pas très bien. Et puis ils se disent, tiens, on va faire une BD un peu sur l'histoire. Bon, ils décident d'adapter le roman de Renard. Ils commencent à travailler, l'un et l'autre, dans leur coin. Puis ils se rendent compte qu'en fait, ça a déjà été adapté en bande dessinée. Flûte loupée. Alors là, Goscinny lui dit, mais pourquoi on ferait pas un truc autour des Gaulois? Ah tiens, pas bête. Alors Goscinny, il a l'idée de créer Astérix, le petit personnage. Uderzo, il lui dit, mais attends, on va lui mettre un petit Obélix, un gros bonhomme. Alors, il aimait pas quand on disait ça, mais en vrai, c'était un peu les deux. Hein. C'est-à-dire que Astérix ressemble beaucoup à Goscinny et Obélix à Uderzo. Il aimait pas trop, mais c'est quand même la réalité. Et ça a l'air de rien, mais c'est le fait qu'il y ait ces deux personnages qui se répondent pendant toutes leurs aventures, à mon avis, qui a fait aussi, en grande partie, le succès de la série. La possibilité, vous voyez, d'échanger, de dialoguer, c'est un peu comme Tintin qui dialogue avec Milou, finalement.
D'ailleurs, en parlant de Milou, il y a aussi Idéfix, ne l'oublions pas.
Et qui est formidable, parce qu'au départ, Idéfix, il devait apparaître que dans un seul album. C'était un concours lancé dans le journal Pilote pour les lecteurs. Il devait trouver le nom, justement, d'un petit chien qui allait intervenir dans cette aventure. Ils ont voté. A été choisi le nom d'Idéfix, mais les lecteurs ont tellement adoré ce petit chien qu'il y a eu des centaines et des centaines de courriers disant « Vous avez intérêt à le laisser dans les prochaines histoires. » C'est comme ça qu'on a Idéfix encore aujourd'hui dans toutes les histoires. Et puis aussi l'histoire, vous savez, elle se situe donc en Armorique. Alors pourquoi? Bon, tout simplement parce que c'est une région où Uderzo aime beaucoup aller. Donc il s'est dit « Je sais la dessiner parce que je vois à peu près à quoi ça ressemble.
Ouais. »
Voilà, c'est exactement comme ça.
On dit qu'Uderzo et Goscinny étaient comme des frères. C'est juste de dire ça.
Vous imaginez pas. Alors j'ai eu la chance de rendre visite à Uderzo, notamment dans son atelier de Neuilly. Sur son bureau, c'est bien simple, il y avait 2 photos, une de sa femme Ada et une de Goscinny, voilà. Et puis j'ai également eu la chance, je le dis, c'est pas pour faire pour me la péter, mais d'aller dans sa maison de campagne qui se trouve à 1 heure de Paris. Et alors là, au milieu des chemins, on se baladait, il me faisait visiter sa propriété. Il y avait des clous, vous savez, les anciens passages cloutés, les ancêtres des passages piétons avant qu'on les peigne sur les sols, c'était réellement des clous qui étaient fixés dans le sol. Et il y a quelques clous comme ça, un peu complètement rouillés. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, ah ça, c'est Goscinny qui me les avait offerts, je n'y toucherai jamais. Et en fait, c'est parce que Goscinny détestait la campagne, Uderzo adorait ça, et donc Goscinny, quand il venait lui rendre visite, il lui avait ramené des clous lui disant, tiens, ça te fera un peu de ville dans ta maison de campagne. C'était génial. Alors, Uderzo, il collectionnait les Ferrari, il m'avait montré sa dernière Ferrari, il en avait gardé qu'une, à une époque, il en avait des dizaines, et j'avais eu la chance aussi de voir une vidéo Super 8, on le voyait conduire ses Ferrari sur un circuit du sud de la France, il y avait Goscinny qui tirait une tronche, et quand il est descendu de sa voiture, l'autre l'a complètement engueulé en lui disant « Écoute, si tu veux te suicider, mon gars, t'as qu'à te tirer une balle. » Tellement il avait été stressé de le voir rouler à toute berzingue sur ce circuit. Voilà. Ils étaient vraiment inséparables, ils passaient toutes leurs vacances ensemble, c'était vraiment des frères.
Et alors, question qu'on se pose fatalement, comment ça se passe pour Uderzo à la mort de Goscinny en 77?
Il dit que c'est le pire jour de sa vie et toute sa vie, il l'a passé en deuil. Lui, il a voulu tout arrêter, il avait une 50aine d'années, il était déjà riche, il voulait laisser tomber Astérix, il n'imaginait pas pouvoir imaginer des histoires comme pouvait le faire Goscinny. Mais finalement, c'est les fans qui ont beaucoup insisté, qui lui ont demandé de reprendre les personnages, qui lui ont dit ils peuvent pas mourir comme ça. Alors il a fait un peu n'importe quoi à certains moments, lorsqu'Astérix est un bébé, lorsqu'il y a des soucoupes volantes qui ont débarqué dans l'univers des Gaulois.
Ouais, mais c'était pas grave.
Mais c'était pas grave, on lui a pardonné.
Et moi, j'aime bien l'album avec le bébé, je trouvais ça très bien.
Ça m'étonne pas de vous. Et puis faut savoir aussi qu'il y avait un modèle avec Goscinny, c'était Walt Disney. C'est-à-dire pour eux, Walt Disney, c'était... Alors à une époque, ils s'étaient dit, on va créer des studios comme Walt Disney, qu'ils avaient appelé les studios Idéfix. Sauf que les deux compères, vous savez, qui faisaient un peu tout et n'importe quoi, qui faisaient avant tout ça pour s'amuser, ils n'avaient pas réfléchi que pour avoir un un studio d'animation, il faut quand même produire plusieurs films d'animation parce que les scénaristes travaillent, les dessinateurs ils travaillent pas. Et donc en fait, comme ils avaient qu'un ou deux films à produire, très vite le truc a été un échec total, une banqueroute complète. Je parle d'un point de vue financier parce qu'ils avaient des dizaines de mecs qui se tournaient les pouces en attendant que le gars d'après ait fini ses couleurs et donc les studios Idéfix sont morts avec la mort de René Goscinny.
Ils étaient meilleurs en dessin qu'en business. On l'aura compris. Merci beaucoup Mathieu Charrier. Peut-être un avis pondéré sur votre prestation ?
C'est une leçon de journalisme.
Merci pour votre honnêteté.
Europe 1.
Justement, comment va Philippe Etchebest ? Vous le retrouvez ce soir sur M6 dans Top Chef. L'émission est évidemment enregistrée depuis longtemps, mais quid de son activité de restaurateur ? Comment le chef emblématique de Cauchemar en Cuisine vit-il ce cauchemar économique à venir ? On va lui poser la question. En attendant, Philippe, comment vous avez trouvé la chronique de Mathieu Charrier ?
Tout ce que fait ce mec, c'est des conneries. Il est criblé de dettes, il fout sa famille en l'air et il reste là, totalement passif. Faut qu'il réagisse.
À bon entendeur, Charrier.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipé sauvage. Mathieu Noël.
Ici Europe numéro 1, les Français parlent aux Français. Mercredi 25 mars 2020, vous écoutez l'équipé sauvage enregistrée, l'équipé sauvage confinée, l'équipé sauvage essoufflée, mais l'équipé sauvage toujours motivée. À l'accordéon, Eva Rock.
Salut beau mec.
Salut Johnny Pépé. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'infos et de bonne humeur en compagnie d'un chef extrêmement populaire mais aussi extrêmement dur. Et déjà que la dernière fois, Michel Sarran nous avait remis à notre place assez vite. Que fait un chef lorsqu'il est malade ? Est-ce qu'un chef malade peut aller travailler ? C'est-à-dire que nous, par exemple, on peut exercer notre métier dans un sale état.
De toute façon, vous êtes malade là.
Oui, quand on sait que dans Top Chef, c'est Sarran le gentil et vous le méchant, je ne suis pas très rassuré de vous avoir au téléphone. Philippe Etchebest est avec nous. Alors justement, on connaît votre tempérament. Est-ce que c'est un tempérament qui s'accorde bien avec le confinement ? Vous nous avez dit tout à l'heure que ça allait, que les journées passaient finalement assez vite, mais vous êtes quelqu'un qui aime toujours être en action. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous avez peur de tourner en rond ?
Je suis en action toute la journée, je vous assure. On se lève à 7h30 le matin. Il y a beaucoup de choses à traiter. Hein. De toute façon, il y a les mails, il y a beaucoup d'appels téléphoniques aussi, avec des restaurateurs qui se posent aussi des questions. Après, moi, je joue de la batterie, donc je profite aussi de ces moments-là pour m'entraîner, m'améliorer et progresser. Je fais du sport aussi, 3 fois par semaine. Trois fois par semaine, j'ai 1 heure de sport à un moment donné avec des exercices bien spécifiques. Et tout ça est cadencé vraiment et rythmé. Et je peux vous assurer
c'est ça
que
qui est important dans ce que vous dites, c'est la cadence.
C'est la cadence. C'est le rythme. C'est ce que je conseille moi aux gens qui tournent un petit peu en rond. Et je répète, même dans les petits appartements, ça peut fonctionner. Il y a tellement de choses à faire et des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien. Et c'est de penser à ça, justement, c'est de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en temps normal et profiter de ça malgré tout. On est sous la contrainte quelque part. On n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, il faut faire des choses. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras ou subir l'événement. C'est mon tempérament aussi d'être comme ça et de ne pas me laisser abattre surtout. Et aujourd'hui, j'arrive à trouver vraiment des activités et plein de choses à faire qui me font passer la journée de manière assez rapide.
Philippe Etchebest, est-ce que vous pensez surtout à l'après-confinement, c'est-à-dire comment vous allez retrouver vos entreprises, comment vous allez vous en sortir aussi pour sauver vos restaurants les bars et les cafés qui ont été fermés ?
Alors, très honnêtement, il va y avoir de la casse. Hein. On va pas se mentir, ça va être très très compliqué. Cette crise va laisser des traces et on essaie justement de trouver des solutions pour aider un maximum de gens. Mais ça va être difficile. Alors, moi je suis en contact avec mes équipes, bien évidemment, j'ai quand même 60 collaborateurs entre les bureaux et le restaurant, ça fait beaucoup de monde. Mais la reprise va être difficile. Hein. Il faut être lucide, ça va pas se faire comme ça, ça va pas se faire sans casse non plus. Et ce qui est important, c'est de limiter cette casse aujourd'hui. Donc c'est de trouver des solutions, et même avec le gouvernement, comment on va pouvoir redémarrer nos entreprises, comment on va pouvoir faire en sorte que ceux qui étaient déjà au bord du gouffre puissent s'en sortir. C'est ça le truc. Il y a de nombreux confrères qui étaient déjà en situation de déficit compte tenu du contexte social hein, avant la pandémie, mais actuellement ça devient compliqué. Puis avec tout ce qu'on demande, l'avance des salaires, il va être très compliqué pour beaucoup. Moi je pense que ça peut être dramatique pour certains, bien sûr.
Et, alors,
il y a une priorité, c'est il y a une priorité, pardon, mais il faut pas, il faut venir à l'essentiel. Toujours, hein, l'urgence, c'est quand même le soin des gens, puis et la santé. Hein,
oui.
Puis on est tout cœur avec les gens qui œuvrent dans ce sens-là, hein, et on les soutient très fort. Et moi, je les félicite. Hein, je l'ai déjà dit, mais les médecins, les soignants, les gens qui permettent aussi aujourd'hui à la population de pouvoir se nourrir. Je pense aux agriculteurs aussi, et je pense aussi aux forces de l'ordre qui n'ont pas une tâche facile.
On entend votre soutien aux forces de l'ordre, aux gens dans les hôpitaux, mais pour les restaurateurs, est-ce que vous êtes en lien, par exemple, avec le gouvernement? Vous parliez tout à l'heure de solutions à trouver pour aider les restaurateurs, notamment au moment de la sortie de cette crise sanitaire. Est-ce que vous-même, Philippe Etchebest, vous êtes en lien avec les autorités pour réfléchir à l'après?
Écoutez, plus ou moins, on va dire. Hein, je suis effectivement en contact, mais pour l'instant, voilà, on essaie d'avancer tranquillement. On a aussi les présidents de syndicats, l'UMI notamment, qui ont déjà vu le gouvernement et qui essaient de trouver des solutions. Mais moi, de mon côté aussi, quelque part, voilà, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour avancer et exposer à la fois les problèmes, mais surtout trouver des solutions derrière.
Philippe, c'est quoi la première chose que vous ferez quand le confinement sera levé? Vous avez déjà réfléchi à ça?
La première chose que je vais faire, bah, déjà aller voir mes parents qui sont âgés, qui sont confinés chez eux. Je les appelle régulièrement. Pour le coup, je les incite vraiment à ne pas sortir et à rester chez eux. C'est extrêmement important. Retrouver mes équipes et puis rattaquer le boulot aussi, parce que je passe ma vie et mon temps à travailler, parce que j'aime beaucoup ça. Et puis retrouver mes équipes. Et puis ils sont tous aussi, je les ai eus là, ils sont tous extrêmement motivés. Ils attendent qu'une chose, c'est de rattaquer le boulot avec nous. Et ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir des gens, des collaborateurs comme ça, aussi solidaires, aussi soudés. Ils savent que la période est très difficile. Elle va être très difficile. Elle est difficile pour eux, mais elle est difficile aussi pour les entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui, il n'y a pas de salariés non plus. Donc on doit tous marcher ensemble et surtout pas se tirer dans les pattes.
Merci beaucoup Philippe Etchebest d'avoir été avec nous cet après-midi en ligne.
Europe 1.
Il a tellement marqué l'histoire du cinéma français que certains animateurs, emportés par l'enthousiasme, limite sans même s'en rendre compte. Des mouches qui étaient insatisfaites sexuellement se projetaient volontairement sur des murs pour se calmer.
Je comprends même pas la question.
Eh bien, des mouches insatisfaites sexuellement pour se calmer. Elles sont bouillonnantes. Vous savez bien, les mouches. Contre le mur pour se calmer. Là, je suis en train de faire Louis de Funès. Le gendarme et les gendarmettes n'auraient pas dû être le dernier volet de la saga. Louis de Funès aurait dû jouer dans un autre gendarme intitulé Le gendarme et l'empereur. Le projet n'a pas vu le jour, mais Frédéric Michel, notre correspondant sur la Côte d'Azur, a mis la main sur le scénario. Il nous raconte l'histoire de ce film avorté juste après Camille, ta douleur sur Europe 1.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Qu'est-ce que... pense quand ce pont entre nos pensées. Si tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante.
Camille, c'était Ta douleur sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Se confiner, oui. Se résigner, non. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 sont peut-être en slip dans leur cuisine ou en tongs dans leur jardin, mais ils font l'effort d'être en ligne avec nous pour que la compétition continue. Celle qu'ils se livrent chaque après-midi au service de votre savoir et en ce moment de votre quotidien. Infos, idées, conseils. Nos journalistes se décarcassent pour vous faire oublier le confinement. Notre prochain concurrent joue gros. Il ne le sait pas, mais dans notre émission, personne n'a jamais été élu chroniqueur du jour avec un sujet sur Louis de Funès. On appelle ça la malédiction charrière.
Je ne sais pas si vous êtes fans tous les deux de Louis de Funès. Ça va m'aider alors.
Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant dans le Sud et c'est donc avec un certain courage, peut-être une certaine inconscience, que vous nous présentez aujourd'hui un sujet autour du gendarme de Saint-Tropez.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Effectivement, je vous emmène à Saint-Tropez. À coup sûr, hein, tous nos auditeurs, mais aussi vous, Mathieu et Eva, vous connaissez par cœur de nombreuses répliques des gendarmes.
Adjudant Gervais, maréchal des logis chef, Cruchot.
Un petit coup de main, Perlin. Gardeau. Ma mère, la nation est en danger.
Et voilà, j'imagine que vous en avez plein d'autres, hein, des répliques dans la tête. On se rappelle hein, tous d'avoir partagé ces instants de franche rigolade en famille, souvent d'ailleurs l'été, hein, au gré des nombreuses rediffusions. Mais vous ignorez peut-être que Cruchot et Gerbert, Louis de Funès et Michel Galabru, devaient se retrouver pour un septième film.
Ah ouais.
Et j'ai le scénario sous les yeux, scénario de Richard Balducci, hein, l'auteur des Gendarmes. Alors on va jouer ensemble. Hein. À vous de deviner le titre, un petit c'est la rencontre avec un illustre personnage de l'histoire de France.
Le gendarme et Louis XIV.
Non, un petit peu plus tard. C'est un homme. Ah, perdu. Bon, le titre exact, c'est Le gendarme et l'empereur, mais je soupçonne hein, que vous le saviez. La rencontre avec Napoléon, c'est en 1982 hein, que Richard Balducci a écrit le scénario. Alors vous allez voir, ça ressemble presque à un autre film culte. Je vous lis le pitch, hein, le résumé, et vous allez me dire. Hein. Les gendarmes de Saint-Tropez partent en mission dans une soucoupe volante, mais leur trajet ne se passe pas comme prévu. Ils remontent le temps jusqu'en 1815 et font la rencontre de l'empereur sur la bataille de Waterloo. Ça nous dit rien ?
Ça ressemble à... Alors, c'est un croisement entre la soupe aux choux et les visiteurs.
Ouais. Oui, alors ça, c'est côté français. Mais si on remplace la soucoupe volante par une DeLorean, on n'est pas loin du film Retour vers le futur.
Exact.
Alors, sorti en 1985, un retour vers le futur. Mais pour être tout à fait précis et honnête, on ne criera pas Cocorico, car Bob Gale et Robert Zemeckis, à l'origine de la trilogie, ont conclu avec Columbia Pictures un accord pour l'écriture du script dès 1980, hein, bien avant. Mais revenons aux gendarmes. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'intrigue. Hein. La BD est d'ailleurs disponible au musée du gendarme et de la gendarmerie à Saint-Tropez. Mais si ce film n'a jamais été fixé sur pellicule, alors qu'on entend derrière moi la BO du film, eh ben, c'est en raison du décès de Louis de Funès en janvier 1983. Cette triste disparition de la star du comique en France empêchera le tournage du 7e épisode. Mais comme j'ai le scénario et même le storyboard sous les yeux, j'ai bien envie de vous entendre dans le rôle de Cruchot, Mathieu, et vous, Eva, dans le rôle de Gerbert.
D'accord.
Alors, non, c'est moi qui gueule sur Eva, pas l'inverse.
Alors, vous avez en votre possession quelques dialogues hein, que je vous ai communiqués. Voilà la scène. Et s'il vous plaît, mettez le ton. Je sais que vous êtes pointu en imitation. Et n'hésitez pas à improviser. Hein.
Alors, attendez, que je comprenne bien. Donc, Mathieu, il joue Louis de Funès et moi, je suis Michel Galabru, quoi.
Exactement.
Moi, je suis Cruchot.
Okay. C'est Louis de Funès.
Ouais.
Alors, les gendarmes sont dans l'espace, hein, ça c'est la scène. Hein. Ils s'attendaient à avoir beaucoup de satellites, mais pas à ce point. Des engins, il y en a partout, au-dessus, en dessous. D'ailleurs, les satellites anglais volent à gauche. Cela devient même un jeu de découvrir la nationalité des satellites. Allez, on tourne, ambiance, à vous Cruchot.
Ça c'est un japonais.
Bah, à quoi tu vois ça ?
Il est miniaturisé. Et celui-là, je peux te parier qu'il est allemand.
Bah, pourquoi ?
Il a des pare-chocs partout.
C'est nul.
Alors là, je pense que c'est un moment d'anthologie du cinéma. Et peut-être d'ailleurs que les producteurs qui nous écoutent vont certainement vouloir relancer ce projet avec ce petit bout d'essai.
Et les amis, vous savez à quoi on reconnaît les satellites australiens?
Ils font des bons.
Et alors, très fort, bravo Eva, ils sont comme des kangourous et tout
voilà.
Ça. C'est dans ce septième épisode qu'il n'a jamais été tourné.
Oh la vache. Et c'est peut-être pas plus mal, Frédéric Michel. Merci beaucoup pour ce beau sujet. Bon confinement à Nice. Au fait, Eva, on fait un petit coucou à Christian Estrosi.
Salut, beau mec.
Ça fait toujours plaisir.
Il est malade, le pauvre.
Pour moi, il va mieux. Il soigne à la chloroquine.
C'est vrai. Europe 1.
Mathieu Charrier, vous aimez Eva?
Ah, j'adore la quiche.
Oh, mais oh!
Eh bien, restez à l'écoute. La séquence qui suit lui est intégralement dédiée. Un savoureux florilège de ses meilleures réponses dans le quiz de Culture G qu'il opposait jadis à l'invité et qu'elle concluait généralement à l'attention de ceux qui avaient écrit les questions d'un sonore.
Arrêtez, bande de bâtards que vous êtes, quoi.
Évidemment, ils ne sont jamais arrêtés. À tout de suite pour le meilleur du quiz.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Se dégourdir les neurones et muscler vos zygomatiques sans bouger de chez vous, c'est possible avec l'équipe est sauvage spécial confinement. 2 heures d'allégresse confinée pour égayer votre après-midi. Or, quoi de mieux pour cela que de se réécouter un best-of des meilleures réponses d'Eva dans le quiz qu'il opposait traditionnellement à l'invité chaque après-midi. A noter que je ne vous jette pas la pierre, Eva. Je suis aussi doué que vous en la matière. C'est simple, la dernière fois que j'ai répondu bon dans un quiz, c'était hier, celui d'Anne Le Gall, qui était pas hyper technique.
Lequel est un vrai pivert? Celui-ci? Ou alors celui-ci?
C'était Eva, notre seule victoire.
Ah oui,
en
carrément.
Revanche, les défaites, elles, on les compte plus.
C'est vrai.
Bernard Werber, vous nous avez décrit tour à tour la formidable intelligence des fourmis, la prodigieuse intelligence des chats. Laissez-moi vous présenter la stupéfiante intelligence d'Eva Rock. Diplômée de la prestigieuse Polytechnic School of Jean-Lépin, Eva brille chaque après-midi dans la séquence du quiz qui l'oppose à l'invité. Alors la dernière fois, le principe assez simple, du moins le croyais-je, je lisais la bio d'une personnalité, il fallait me dire simplement si cette personne s'appelait François ou Xavier. Donc deux possibilités, François ou Xavier, écoutez la réponse d'Eva. Acteur dans la série Pas de pitié pour les croissants, Eva Rock.
Le Cabu? Cabu, Corbier, c'est proche.
Je sens Bernard Werber assez serein avant d'entamer le quiz. En hommage à vos fourmis, Bernard Werber, en hommage à vos félins, dans votre dernier livre Sa Majesté des Chats chez Albin Michel, on a décidé de faire un quiz animalier. C'est un vrai faux, c'est chacun son tour, chaque bonne réponse vaut un point, un indice pour Eva. Aucune réponse n'est Cabu. Eva Rock, si vous êtes un homme et qu'au Brésil vous êtes piqué par l'araignée banane, vous risquez d'avoir une érection. Vrai ou faux, Eva?
Mais comment voulez-vous que je réponde à cette question, quoi?
C'est un vrai sujet de
question.
Il faut déjà que je m'imagine
vrai,
en
faux
plein.
Ou Cabu.
Je dirais vrai.
Mais vrai, oui, mais oui. Ça me plaît cette histoire d'araignée banane.
Mais oui.
Le venin de cette araignée banane augmente la production d'oxyde nitrique. C'est un vasodilatateur provoquant une érection. Ne cherchez pas à vous faire piquer par elle. Ça peut entraîner aussi des asphyxies ou des douleurs atroces, voire la mort. Donc
on ne connaît pas l'effet sur une femme, par exemple.
Voilà. Ah ben là, il ne faut pas essayer du tout, puisque ça n'a aucun intérêt. Autant nous, il peut se passer quelque chose de positif. Autant vous, seule la mort vous attend. Attention, une question, 3 propositions. Vous répondez ensemble. Le wombat, petit marsupial très mignon, vit en Australie. Quelle est sa particularité? 3 propositions. 1. Il est le seul animal à faire des crottes carrées. 2. Il est le seul animal à ne jamais boire. Ou 3. Il est le seul animal à avoir suivi tous les conseils télé des Varocs depuis qu'elle fait de la radio.
C'est pas possible qu'ils boivent pas.
J'ai cru de suivre les conseils télé des Varocs.
Et les deux autres réponses m'ont l'air peu probables.
Ouais. Et pourtant,
les crottes carrées.
Bonne réponse. Taisez-vous, Eva. C'est notre invité qui a pris la main. C'est notre invité qui remporte le point. Les crottes cubiques. Il en profite pour les empiler et mieux marquer ainsi son territoire. Il fait du Tetris avec ses crottes. Il peut produire une centaine de petits excréments carrés en une nuit. Il est productif, le wombat. Sachez que le koala, vous dites que c'était pas possible, ne boive pas. Le koala ne boit pas. Les feuilles d'eucalyptus lui suffisent.
Oui, il prend l'humidité dans les feuilles d'eucalyptus.
Oui, tout à fait, mais il ne boit pas du coup.
C'est incroyable. Il y a de l'eau qui rentre dans son corps.
Ah oui, il y a de l'eau qui rentre dans son corps, évidemment. Non, Eva Rock.
Oui.
Non seulement Bubbles, le chimpanzé adopté par Michael Jackson, est toujours vivant, mais en plus, il est officiellement témoin de Jéhovah. Vrai ou faux?
Non, je crois qu'il est même mort, le pauvre singe.
Je ne sais pas si je vous donne le point ou pas, parce que vous avez la bonne réponse, mais vous avez dit une connerie. Donc, faux! C'est vrai, il n'est pas témoin de Jéhovah, mais il est toujours vivant. Depuis 2005, il vit dans une réserve de Floride. Et il a 36 ans, figurez-vous, mais il n'a pas de religion connue. C'est la mère de Michael qui est témoin de Jéhovah. Ne pas confondre le chimpanzé et la maman.
Oui, mais j'ai un point parce que j'ai donné quand même la bonne réponse.
Oui, elle est compétitive quand même. Hein. Oui, oui. Bernard Werber. Attention, cette question va vous départager. Pour communiquer la nuit, les harengs ont un système de sonar totalement identique aux chauves-souris. Vrai ou faux ?
Vrai.
C'est faux.
Ils utilisent...
C'est pas non, c'est pas ça.
Les harengs utilisent la lumière. Ils ont... Vas-y.
Ensuite, je donnerai la réponse.
Hein. Les harengs sont connus pour péter.
Et c'est bonne réponse d'Alain Sirou. Un point bonus
pour
Alain Sirou.
C'est un ignoble Nobel qui a été accordé il y a quelques années.
Ils font des petites bulles.
Écoutez bien.
Des petites bulles qui explosent.
Ils utilisent les flatulences pour se parler. C'est la plus ancienne académie des sciences en Europe, la Royal Society britannique, qui a publié l'étude scientifique. Les chercheurs ont remarqué qu'en aquarium, les harengs commencent à produire des sons très aigus sous forme de paix quand venait le soir. Et plus ils étaient nombreux, plus le nombre de bulles de gaz augmentait. Les poissons des autres espèces ne pouvant entendre cette fréquence, on en a déduit une forme de communication.
J'ai bien fait de venir, on apprend des choses.
Apprendre quelque chose sur un animal à Bernard Werber.
Ah oui,
là, je dis bravo nous.
Est-ce que vous pourriez écrire un livre sur les harengs?
Maintenant que vous me le dites, c'est une peut-être
nouvelle,
une idée.
Peut-être.
Là.
Bah, oui.
Mais
là,
demain, les harengs et Sa Majesté les harengs, je vais y réfléchir.
Mais je crois que votre éditeur va trembler encore une fois de plus. À moins de mettre un harengs nymphomane et narcissique.
Je pense que ça va marcher en Bretagne.
Alors Bernard Werber, des fourmis au chat, on sent votre passion, votre fascination pour les animaux. Je voulais revenir sur la préface. Vous attribuez au chat Pythagore, un des personnages du livre, ce chat connecté à Internet, on l'a dit, la phrase suivante. Tout être qui cache son anus peut raisonnablement être considéré comme suspect de vouloir dissimuler ses vrais sentiments. Oui. C'est-à-dire que l'homme est fourbe, à l'exception des naturistes.
Regardez quand même, tous les animaux exhibent leur anus, mais probablement d'ailleurs pour envoyer des odeurs de communication avec leur espèce, notamment je suis ouverte à toute rencontre, je pense, alors que nous on met des parfums artificiels pour troubler le message. Mais chez les animaux, visiblement, il n'y a pas de pudeur, et ça a peut-être un sens, peut-être ça leur apporte quelque chose, cette absence de pudeur.
Dans votre encyclopédie du savoir relatif et absolu, page 239, vous rappelez que les chats ont été utilisés à des fins militaires, on le savait pour les chiens, les chevaux ou encore les pigeons, mais pour les chats, ça a été un échec. Racontez-nous en quoi les chats sont différents.
Alors, en 1961, la CIA a voulu utiliser un chat comme espion, donc ils ont mis des micros dans ses oreilles, ils ont mis une batterie dans son ventre et une antenne dans sa queue, et ils l'ont dressé pour qu'il aille dans l'ambassade de Russie. Et le chat est rentré dans l'ambassade de Russie, et il est ressorti parce qu'il a rien trouvé à manger, et il s'est fait tout de suite écraser par un taxi. Et la CIA n'a pas voulu renoncer, donc ils en ont fait encore une dizaine, et ça a coûté 50 millions de dollars. Ils ne sont jamais arrivés à avoir des informations dans l'ambassade de Russie avec des espions chats.
Europe 1.
Le confinement en famille, déjà, c'est pas de la tarte, mais le confinement en famille avec des adolescents, ça peut virer à la boucherie. Surtout si vous commencez à empiéter sur son intimité.
Putain, frappe, merde.
Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux. Tu sais quoi ?
Tu te masturbes ? Tu pensais à quoi ?
Tu me fais chier ! Tu me fais chier ! Tu me fais chier ! Parce que toi, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette ! Tu m'emmerdes ! Tu m'emmerdes ! Putain, on peut plus être tranquille dans cette maison !
Fin à ce cauchemar en postant l'ado devant une série addictive. C'est la parade qu'Eva Rock a trouvée pour vous en ces temps de confinement. Elle vous livre ses recommandations du jour après Shed, Trampoline sur Europe 1.
I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never learned to float there. As I'm looking up. Suddenly the sky erupts. Flames alight the trees, spread to falling leaves. Now they're right upon me. Wait, if I'm on fire, how am I so deep in love? When I dream of dying, I never feel so I've been having dreams, splashing in a summer stream,
tripping, I fall in, I wanted it to happen,
my body turns to ice,
my body turns to ice,
crushing way to
paradise,
scarlet black or gold, lying in the cold, I feel fire. How am I so?
Shed, c'était Trampoline sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
En quête d'un peu d'évasion dans ces après-midi qui se suivent et qui se ressemblent, et on a tous l'impression d'être Bill Murray dans Un jour sans fin, écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures en duplex de chez moi pour retrouver le sourire, booster votre culture G et clouer le bec à vos marmots qui depuis une semaine maintenant vous dérangent sans cesse dans votre télétravail. Inutile de nier, je les entends d'ici. Shootés au sucre, tournant en rond dans votre appartement comme des poissons sous extase dans un bocal, s'agrippant au rideau, squattant votre ordi de boulot pour regarder l'âne trop, et taguant leur prénom au Nutella sur le mur du salon avec une faute d'orthographe en plus au prénom. Vous ne savez plus comment sévir.
J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous, jamais.
Décontractez-vous, on va les foutre sous sédation. Sédation audiovisuelle, c'est le traitement que préconise le docteur Rock pour vos enfants et vos ados. C'est comme la chloroquine. On s'en méfie, on dit qu'il y a des effets secondaires, mais ça a le mérite de marcher.
C'est exactement
Eva, qu'est-ce
ça.
Qu'on propose à nos chers petits anges aujourd'hui?
J'ai cru qu'il y avait du vécu dans ce que vous veniez de raconter, dites donc.
Oui, c'est possible.
Oui, c'est possible. Allez, je dois vous avouer une chose, Mathieu, c'est que je redécouvre en fait la diversité des programmes jeunesse et c'est un peu vertigineux, notamment les contenus. Alors d'abord, ils sont nombreux et divers, mais ils offrent aussi, et c'est ça qui est intéressant, une vision de la société en fait. Par exemple, sur TF1 ou sur le site mytf1.fr, un des héros des petits est le même que celui de la génération née en 1969 et qui et j'en suis sûre, le chouchou d'Anne Le Gall.
Salut, Oum. Désolé, mon vieux, il n'y aura pas de surf aujourd'hui.
Est-ce que vous vous souvenez de Oum, le dauphin blanc, Mathieu?
Ah ben, ça, c'est toute ma jeunesse.
C'est toute votre jeunesse. Hein. C'est assez très intelligent, ami d'un petit garçon de 13 ans qui s'appelle Yann et de sa sœur Marina. Alors, on va suivre leurs aventures auprès de Patrick, le l'oncle. C'est un ancien marin qui est amoureux des animaux. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est la défense de l'environnement à travers notamment la découverte des animaux marins qui est au cœur de cette version moderne de Oum le dauphin, même si l'oncle, il se déplace quand même à bord d'un gros bateau pas hyper écolo à mon avis. Mais enfin, bon, je suis pas forcément très fan du graphisme, mais le message positif quand même prend le pas sur l'aspect artistique et je trouve ces épisodes de 10 minutes très efficaces. Alors dernière petite info, je suis très étonnée que vous ne me l'ayez pas déjà dit, Oum le dauphin a bien été utilisé pour la pub d'une marque de chocolat blanc, ça on est d'accord, mais Galak. Figurez-vous, Galak, voilà, pour pas la citer, mais plus intéressant c'est qu'en fait ça a été le premier dessin animé français diffusé au Japon, voilà, Oum le dauphin, c'est à voir sur mytf1.fr ou sur dans la section jeunesse T'es fou sur TF1.
Voilà. Alors, j'espère quand même que vous avez un autre programme à nous suggérer pour les ados, parce que les ados, Oum le dauphin,
bon, peut-être, vous savez, on sait jamais. Non, allez, j'assure aussi le SAV pour les écrans des ados, avec aujourd'hui une chaîne YouTube que j'aime particulièrement, qui est intitulée « Tout le monde s'en fout ». Alors imaginez, on est dans l'atmosphère sombre et inquiétante d'un grenier. Le héros Lexa, incarné par un des créateurs de la chaîne, Alex Latuada, évoque les sujets de société. Alors en mêlant la plupart du temps des concepts philosophiques à de l'humour, la dernière vidéo mise en ligne a pour thème la colère.
Quand t'entretiens ta colère dans le temps, ça devient une sensation physique difficile à contrôler.
En plus, nourrir sa colère, ça met le corps en surproduction de cortisol.
C'est le truc qui te permet de concentrer ton énergie dans tes muscles pour te préparer à te battre.
Mais surtout, ça s'infiltre dans ton sang, ça monte dans ton cerveau et ça attaque les cellules des zones qui t'aident à prendre du recul.
Et du coup, tu pars en sucette.
Bref, entretenir ta colère par orgueil, ça finit juste par produire un nouveau sentiment, la haine.
La haine, c'est une stratégie neurologique de ton cerveau pour te donner des bonnes raisons d'être en colère un bout de temps.
Alors, outre le fait que chaque vidéo est extrêmement bien produite, le fond est travaillé, vous venez peut-être de le comprendre avec cet extrait, c'est intelligent, sans être préemptoire. Alex Latuada et ses deux compères Marc et Fabrice Bonny parviennent en fait avec cette chaîne à transformer ce qui pourrait ressembler à une discussion de café de comptoir en réflexion construite qui pousse à réfléchir. Alors, les thèmes sont très divers, hein, ça va de l'eau au racisme en passant par la violence, l'argent ou les émotions. Et figurez-vous que « Et tout le monde s'en fout », donc le nom de la chaîne, a déjà séduit 585 000 abonnés sur YouTube. Ça se décline aussi en livre et en un spectacle et ça, personne s'en fout. C'est à retrouver sur YouTube. C'est franchement parfait pour réviser quelques notions de philo pour les élèves de terminale sans se prendre la tête en plus. Et puis, dernière petite chose, Mathieu, il fallait que je vous le dise quand même, c'est que les chaînes de télé, elles déprogramment à tout va les soirées initialement prévues. Elles ont le droit en ce moment, le CSA, on doit le dire, ferme un peu les yeux. Et c'était le cas hier, je vous parlais du Roi Lion sur Canal+, sauf que Simba a été remplacé par un X-Men. Donc, pour connaître réellement la grille des programmes, ça va tellement vite et ça bouge tellement même dans la journée.
Que je vous appelle directement.
Alors, soit vous m'appelez.
06 67
voilà,
22 15.
Voilà, vous m'appelez. Soit vous fiez surtout aux différents sites internet des chaînes qui prennent vraiment en compte toutes ces déprogrammations et pour vous proposer la programmation la plus exacte. J'en suis désolée, hein, c'est pas ma faute, vous ne m'engueulez pas pour le coup. C'est comme ça. Voilà, ils ont le droit. La convention du CSA l'autorise.
Personne ne vous engueule.
Non, mais j'ai précédé le mouvement, vous voyez.
On vous remercie. Nos enfants sont maintenant sous sédation télévisuelle. On va enfin pouvoir télétravailler tranquille.
Europe 1.
Une première page se tourne dans l'équipée sauvage. De nouveaux prétendants à la couronne de chroniqueurs du jour vont nous rejoindre pour nous parler littérature et économie. Mathieu Charrier et Frédéric Michel vont quant à eux repartir, chacun de leur côté, deux vies si diamétralement opposées, puisque l'un va rentrer dans son modeste appartement du 19e arrondissement, où il remontera un peu le chauffage, car ça pèle un peu aujourd'hui à Paris, alors que l'autre regagnera sa villa des hauteurs de Nice, d'où il boira des spritz à notre santé au soleil de la baie des Anges.
Comme quoi, ça tient un peu de choses quand même, une carrière, hein, franchement.
Comme vous dites, mais ne remuez pas le couteau dans la plaie pour ce pauvre Charlie.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
À l'heure d'accueillir dans quelques instants deux nouveaux chroniqueurs, dont l'inénarrable Axel de Tarlet, j'aimerais saluer l'implication héroïque de tous ces journalistes qui continuent de bosser de chez eux, alors qu'ils ne savent parfois même pas comment brancher le matériel qu'on leur a donné au secteur. Ce qui donne lieu pour certains à des mises en place techniques si laborieuses qu'hier, Axel m'a rappelé le petit garçon si paumé, si émouvant, dans le téléphone pleure de Claude François. Comme lui, il avait l'air de ne rien comprendre à ce qui se passait, le pauvre Inou.
Ouais, c'est Axel. Salut Michel.
Écoute, maman est près de toi.
Ouais, c'est bon.
Faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi.
Dis donc, je me suis mis dans ma chambre là parce qu'il y a moins de hauteur de plafond, mais je capte un peu moins bien. Donc est-ce que le son est meilleur, mais est-ce qu'on capte toujours aussi bien? Voilà, allô? On commence à prendre l'habitude.
C'est important.
Ouais, très bien.
C'est
impeccable. Alors, rapproché d'un mur. Tu veux dire ma fenêtre, par exemple? Parce que ça résonne, c'est ça? Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, bah, je vais me mettre là, alors. Très bien. Ok, parfait.
Vous avez envie de faire de gros
génial.
Poutous,
oh, oui.
Axelou?
Oh oui,
oh, oui. Bah, vous avez de la chance, il arrive, tiens.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage en duplex de chez moi. Deux heures pour renouer avec l'optimisme et se détendre un peu pendant que le comité scientifique cherche une parade au coronavirus.
Bah quoi, ce vieux fourbi, c'est quand même pas du plutonium. Jusqu'ici, on a eu la poisse, c'est tout. Et la poisse, j'en veux plus.
Voilà. Deux heures également pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui chaque après-midi croisent le fer au service de votre culture G et en ce moment évidemment de votre quotidien. Un seul sera couronné chroniqueur du jour, celui qui vous aura offert la chronique la plus utile, et c'est Arnaud Lagardère, le patron d'Europe 1 lui-même, qui lui remettra sa récompense.
Celui qui l'a fait, je lui offre un sandwich.
Oui, forcément, hein, c'est les temps sont durs. Le premier n'a pas son pareil pour nous dégoter des idées d'activités passionnantes et intelligentes. Lundi, avec sa proposition de découvrir le site de la BNF, on peut dire qu'il a littéralement subjugué Evaroff.
Mais c'est dingue, la diversité des contenus sur ce site. Il y a par exemple, en ce moment, à l'occasion de l'année de la bande dessinée, toute l'histoire de Popeye.
Ah, génial.
Ah ouais, oh. Super. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
C'était très bien votre sujet, Nicolas
Caro. Juste après.
Oh là là.
Vous êtes l'expert littérature d'Europe 1, Nicolas, et cet après-midi, vous nous proposez une sélection de livres audio pour continuer de lire, même quand on a mal à la tête.
Ah, génial.
Arrêtez.
S'il vous plaît.
Oh, arrêtez.
Des livres audio.
Gratos.
C'est tout.
Sélection de livres audio gratos.
D'accord.
Voilà. C'est tout. Il n'y a pas d'autres.
J'en ai plein.
D'accord. Vous en avez plein,
bah
et
non,
c'est gratos.
Tout résumé là, mais je vais vous faire écouter un peu.
Ah. Ça sera mieux. Face à vous, Nicolas, virtuellement bien sûr, il a vécu lundi un cruel ascenseur émotionnel au moment où on vérifiait la connexion.
Salut beau mec.
Mais c'est qui le beau mec ?
Bah c'est Mathieu Noël, excusez-moi. Hein.
J'ai cru que c'était moi le beau mec. Pardon, je l'ai pris pour moi. J'ai oublié que j'étais moche.
Oh, bonjour Axelou de Tarlet.
J'ai pas rancunier, hein.
Non, mais non.
Ah non, vous êtes toujours la fidèle au poste. Vous êtes évidemment le plus beau d'entre nous, Axel, et surtout le plus compétent en matière économique. Aujourd'hui, une chronique en forme de tuto. Depuis quelques jours, on entend que le CAC 40 décroche. Mais au fait, c'est quoi le CAC 40 exactement ?
Voilà, je vais faire des petites leçons d'économie, voilà, faire le petit professeur. Alors, si vous trouvez que c'est pas bien, eh ben, prenez-vous-en à Eva Rock, parce que c'est son idée. Elle a dit, tiens,
ah,
comme sujet, t'as qu'à nous faire des cours.
Okay.
Déjà, on vous sent un peu au bout du rouleau, Axel, parce que je crois que vous donnez déjà pas mal de cours à domicile à vos enfants.
Oui.
Et d'ailleurs, parfois sans succès, surtout en mathématiques, visiblement, on y reviendra. Mais donc là, c'est la leçon de trop. Alors, le CAC 40, Kesako ou bien ces livres audio qui vont vous tenir compagnie en ces temps de confinerie, quel sujet vous plaira le plus ? Nous le saurons juste avant 18h. Pour le moment, à défaut de me tourner vers un invité qui, évidemment, n'est plus là, je me tourne vers vous, chers auditeurs. Comment vivez-vous ce 9e jour de confinement ? Vous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail d'Evarock, eva.rock@europe1.fr.
Léonore, écrivaine, confinée dans le 12e arrondissement, avec mon fils de 13 ans, mon nouvel amoureux et un chat. Aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil de mon ex, le père de mon fils, parce qu'il avait appris que j'étais sortie avec mon fils au marché. Il a une nouvelle amoureuse qui est asthmatique, et comme on est en garde alternée, il m'a dit que si mon fils, notre fils, continuait de sortir, il ne pourrait plus venir chez lui. Donc je me suis demandé si mon propre confinement devait être régi par l'asthme de la nouvelle femme de mon ex. J'ai dit d'accord, j'ai accepté que mon fils ne sorte plus pour qu'il puisse voir son père. Et je n'avais jamais imaginé pouvoir dire cette phrase-là.
Mais c'est étonnant, parce que c'est une vraie question quand même. Mais exactement, qui est romancière et qui nous envoie des petits messages régulièrement. Elle nous en a encore envoyé un hier soir qu'on vous fera écouter pendant la semaine. On a reçu aussi un autre message, Mathieu, que je voulais vous faire écouter, un petit peu plus souriant, mais qui est aussi révélateur de comment on vit notre confinement. Et c'est Aude qui nous a envoyé ce message.
Chez nous aussi, la vie continue comme elle peut. On se réjouit d'un rien, un bon petit plat, une vidéo rigolote, et on relativise au maximum en comparant nos petites misères à celles des autres. La semaine dernière, par exemple, c'était les copines qui loupaient leur rendez-vous chez l'esthéticienne ou chez la coloriste. J'avoue, on va bien rigoler quand on sera déconfiné. Quand j'ai vu sur Internet que des filles revendaient leur robe de mariée, je me suis demandé, est-ce qu'elles sont persuadées que leur couple ne résistera pas à des semaines en tête-à-tête avec leur amoureux ? Non, franchement, comme on dit, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. S'il n'y avait pas cette vilaine odeur dans la salle de bain et une remontée d'eau un peu marron dans le bac à douche à chaque fois que quelqu'un tire la chasse d'eau, bah, je vivrais même hyper bien, moi, ce confinement.
Et vous, les amis, comment ça se passe, votre confinement à vous, Eva ?
Alors, bah, écoutez, moi, je suis confinée au bureau avec Romain Causer, le réalisateur, et on vit plutôt ça bien. Je suis en train de le regarder. Là, il a l'air de... Ouais, ça va. Il me supporte, apparemment.
Et il me signale dans le casque, lui, le vit beaucoup moins bien que vous, visiblement.
Et alors, pour tout vous dire, je vais vous dire un petit secret, c'est qu'on ne se parle pas beaucoup, parce qu'on a tellement de boulot qu'on a la tête penchée sur l'ordi. On est hyper sage.
Comme ça, au moins, vous n'échangez pas vos miasmes. Nicolas Caro,
oui.
Vous, ça se passe comment dans le 17e arrondissement de Paris ?
Ça se passe bien. Là, j'ai séquestré ma fille avec un dessin animé. Et juste avant de prendre l'antenne, elle voulait jouer de la guitare. Je lui ai dit non.
C'est pas le moment. Vous, Axel, vous êtes toujours dans votre buanderie ? Enfin, dans votre chambre aménagée en buanderie ?
Exactement. Enfin, maintenant, ça fait un peu tout. Il y a des ordinateurs, il y a un truc à raclette. Ça devient le grand bazar chez moi.
Sainte Chloroquine, priez pour nous. L'équipe est sauvage, continue.
Europe 1.
Depuis trop longtemps maintenant, votre bibliothèque n'a plus qu'une fonction décorative. Et si vous profitez d'être bloqué à la maison pour vous remettre à lire ? Nicolas Caro, effaré par la culture littéraire des baroques.
C'est une friche desséchée pierreuse.
A décidé d'y remédier. Mais doucement, pas à pas, en commençant par une sélection de livres audio. Ça sera juste après un tube qui va nous rappeler l'époque où on allait encore en boîte de nuit. Non. Voici Robbie Williams, Rock DJ sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
We
of the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body.
C'était Robbie Williams sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il est loin le temps où pour fêter l'arrivée du printemps, on se retrouvait aux terrasses des cafés. Et où dans une ambiance badine, Axel de Tarlet chantait...
Alison, c'est ma copine à moi.
Désormais, nous faisons face à la pire crise sanitaire de l'époque moderne. Enfermés chez nous pour une durée indéterminée, il nous faut apprendre à nous occuper. Pour certains, il n'y a qu'une manière de vivre ce confinement prolongé.
Tranquille ou pépère devant la télé.
Eh bien non, Eva. Il existe d'autres solutions que la télé pour tuer le temps. La preuve avec vous, Nicolas Carreau.
Oui, et gratuitement en plus, puisque avec Audible. Audible, vous savez, on en a déjà parlé, c'est une plateforme de livres audio. Vous téléchargez, ensuite vous choisissez n'importe quel livre audio. Il y en a des milliers, ça coûte dans les 15-20 euros. Mais donc ensuite, vous avez des dizaines d'heures d'écoute de lecture de livres par des comédiens. C'est très très bien fait, ça s'est bien développé en France depuis 3-4 ans et on commence à connaître un petit peu.
Et alors, quelle est la nouveauté
à l'heure du moment.
Eh bien, la nouveauté, c'est qu'avec la crise sanitaire, certaines plateformes mettent certains livres audio à disposition. Et c'est le cas d'Audible qui lance Audible Stories. C'est pas tout à fait la même chose. Vous ne téléchargez pas le livre, donc vous ne le garderez pas pour toujours. Mmh. Mais vous pouvez l'écouter en intégralité, sans vous inscrire ni rien. Et surtout, donc, gratuitement. Et notamment, il y a des grands classiques, comme celui-là. Dites-moi si vous reconnaissez.
Par exemple, L'oiseau, ami de Pierre.
Oh bah Pierre et Loulou.
La flûte légère et gazouillante.
Moi aussi j'avais reconnu, mais je voulais juste entendre la musique.
Ah bon, pardon.
C'est fou, hein.
Le malheureux canard. Le hautbois mélancolique.
Donc Pierre et Loulou,
c'est génial. Ouais.
Musique de Prokofiev, lecture de Gérard Philippe. Hein.
Oui.
Pierre Loulou, c'est un peu hors série puisque c'est un conte musical. C'est pas vraiment un livre audio, mais enfin, vous faites écouter ça à votre enfant, vous avez un peu de temps de tranquillité. Il y a de la pure littérature aussi, du livre audio stricto sensu, comme Les Trois Mousquetaires. Écoutez le tout début, c'est le portrait de D'Artagnan.
Traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous, Don Quichotte a 18 ans. Don Quichotte, décorcelé, sans houbert et sans cuissard. Don Quichotte, revêtu d'un pourpoint de laine, dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lit de vin et d'azur céleste.
C'est bien fait quand même.
Ah ouais,
après,
vraiment.
Ça me donne envie d'écouter.
Ah oui.
En deux minutes, on a envie d'écouter tout le reste. Et là, il y en a pour 22 heures d'écoute quand même.
Oui, d'accord.
Mais bon, c'est le plus grand chef-d'œuvre de la littérature mondiale, donc on peut se permettre. Mais 22 heures d'écoute, c'est pas mal, ça permet de s'occuper un peu. Et puis j'en ai un petit dernier, vous allez reconnaître aussi, normalement.
En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux
Kafka,
insecte.
Évidemment.
Kafka.
Il
la
était
métamorphose,
sur le dos,
c'est beaucoup plus court, évidemment.
Aussi dur
c'est une grosse nouvelle, mais alors quel talent. C'est donc l'histoire d'un homme, un représentant de commerce qui se réveille transformé en insecte un matin, et on observe ce que ça change, et surtout le regard des autres qui change. Je vous fais pas l'article, c'est une réflexion sur la mise à l'écart, sur la différence, c'est magnifique.
Et puis,
c'est beaucoup plus court que les 22 heures de Dumas.
Et en plus, je trouve que le terme métamorphose, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a l'impression que...
C'est une forme de confinement aussi.
Ouais, exactement.
Vous êtes sur France Culture, toujours. Merci. Merci, Nicolas.
Un peu de culture, Mathieu Noël, ça vous fait du bien.
Mais attention à Kafka. Bah, vous croyez que je connais pas Kafka. Je vous déconseille la lecture du Château en ce moment.
Ah oui, carrément.
Le Château de Kafka, ça rend fou en temps normal. Donc là, je pense que si on le lit confiné, le sentiment d'étouffement va être plus fort. Je vous le déconseille, restez sur la métamorphose. Merci Nicolas pour ces conseils littéraires. Et en ces temps difficiles, on doit, je crois, s'épauler les uns les autres. Si jamais il y a quelque chose que je peux faire pour vous, n'hésitez pas.
J'aime qu'on me susurre dans le casque.
Eh bien, pas de problème. Je vous dis à tout à l'heure pour le vote final, un peu avant 18h. Déjà qu'on a tourné en rond toute la journée dans la maison, il n'est pas question de rater sa soirée. C'est important de se détendre en famille. Encore faut-il trouver une idée fédératrice.
Devoir organiser des courses de mérou.
Oui, oui, ou alors mieux, trouver quelque chose de sympa à regarder à la télé et sur les écrans. Heureusement, Eva, vous allez vous ressaisir et nous distiller des conseils ciné et séries pour ce soir. A tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Europe 1. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipée sauvage et soyons honnêtes, le confinement, qui pouvait avoir une dimension ludique, voire sympathique dans les premiers jours, commence au 9e à sérieusement nous taper sur le système. Nos proches, dans un premier temps compréhensifs et à l'écoute, deviennent de plus en plus hermétiques à nos problèmes. Désormais, c'est un peu chacun pour soi, comme je l'ai constaté tout à l'heure alors que j'appelais ma maman pour me plaindre.
Alors écoute bien, tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'encarin. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien à foutre.
Bref, la seule personne à qui j'ose encore poser des questions parce que je sais son altruisme inaltérable, c'est Eva Rock. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé ou sur les écrans?
Si vous voulez vous faire plaisir, vous regardez la crise avec Maria Pacop, dont on vient d'entendre un extrait. Alors écoutez, à défaut de pouvoir faire du sport aisément chez soi, alors sauf si vous avez un appartement aussi grand, celui que vôtre, hein, Mathieu.
Oh, je vous en prie, Eva, je vous en prie.
Je vous ai concocté une soirée sport et évasion. Alors, le premier programme, c'est la série de documentaires de Canal Plus Sport qui est intitulée Stade. Oui, une série de documentaires sur les stades. Et vous allez le voir, c'est passionnant. Alors, vous allez notamment découvrir qu'en Chine, par manque d'espace, les gamins jouent sur des terrains synthétiques qui sont installés sur les toits-terrasses des immeubles. Généralement, c'est au 7e étage. Le plus difficile, c'est de trouver une place dans l'ascenseur qui amène jusqu'au terrain, parce que les ascenseurs sont aussi bondés que le métro à heure de pointe. Alors, petite précision, l'heure de pointe, c'est un truc qui existait il y a encore 15 jours. C'était vers 18h30, c'était difficile de prendre le métro, c'était un peu du sport, voilà. Mais ça, c'était avant. Mais autre destination que vous allez découvrir sur un autre stade, c'est au Sénégal, sur l'île de Gorée. Chaque année est organisé un tournoi de foot sur l'unique stade du coin. Alors, il y a de la terre, évidemment. Et puis, écoutez bien, il y a un baobab au milieu du terrain. Alors les jeunes, évidemment, ils voudraient détruire l'arbre, parce que ça serait quand même plus pratique pour jouer. Mais c'est pas du tout du goût des anciens qui pensent que dans le baobab, vivent des esprits.
Ce sont des êtres que nous ne voyons pas. Ces êtres-là, si vous faites quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont répliquer. Ils vont répliquer. Si les esprits vous jettent un sort, c'est fini. Ou vous mourrez d'office, ou vous gardez une maladie jusqu'à la mort.
Et résultat, eh ben le baobab, il est toujours au milieu du terrain de foot. Et c'est un petit peu compliqué, voilà. C'est une formidable série documentaire avec des histoires extraordinaires, joliment filmées et qui sont enrichies par les témoignages de ceux qui vibrent et vivent à travers le football. Je vous recommande notamment le film tourné en Norvège avec un stade de foot totalement enneigé dans un décor magnifique au pied d'un fjord. C'est à voir donc ce soir sur Canal Plus Sport ou sur mycanal.fr quand vous le voulez.
Vous savez quoi, Eva, je l'ai vu. Ce documentaire, il est exceptionnel.
C'est génial. Alors,
au début, je suis tombé dedans comme ça, je me suis dit, je m'en fous des stades de foot. Et ben, au bout de deux minutes, je m'en foutais plus du tout. C'est magnifique, il y a des histoires humaines derrière.
Exactement.
Et je spoil un peu, mais pour donner envie de le regarder, il y a un très très beau moment, je crois que c'est en Amérique centrale,
au Pérou.
Au bout du monde, ou au Pérou, où un petit garçon, on lui demande, c'est qui ton joueur de foot préféré? Il connaît Mbappé, il dit, ah, moi c'est Mbappé. Et là, il se passe quelque chose, je dis pas ce que c'est,
non,
mais en
ne
tout cas,
pas.
Il se passe quelque chose de magnifique dans ce reportage, d'extrêmement émouvant.
Voilà, ils sont très courts les documentaires, ils font à peu près 23 minutes, vous en avez.
Cinq ou six disponibles,
voilà.
Est-ce que globalement les séries s'emparent de ce thème du sport?
Oui, alors la dernière en date, elle est à découvrir et c'est une nouveauté sur Netflix. The English Game va vous embarquer dans l'histoire du foot moderne à la fin du 19e siècle en Angleterre. Un sport qui était alors pratiqué en fait par les gentlemen, les aristocrates les plus riches. Hein. Sauf que dans les usines vont apparaître les premières équipes. À Darwen, au nord du pays, le patron de l'usine de textile et coach de l'équipe, il s'appelle James Walsh, a décidé de recruter deux joueurs, Fergus Suter et Jamie Love, des joueurs payés pour venir renforcer l'équipe, c'était du jamais vu et l'objectif est clair pour le coach.
Seuls les aristocrates ont déjà soulevé la coupe. Des hommes qui viennent des meilleures écoles, qui sont vêtus des plus beaux habits, qui ont la belle vie. Imaginez ce que ça représenterait si des hommes comme nous sortaient vainqueurs.
C'est notre rêve.
J'aimerais me réveiller un jour et voir que c'est plus que ça, en ayant la conviction que c'est réel. C'est pour cette raison que je vous ai fait venir à Darwen, Fergus.
Alors cet extrait, il résume tout à fait l'esprit de la série. C'est-à-dire que le foot est quasiment un prétexte en fait à raconter les pouvoirs de domination dans cette Angleterre de la fin de siècle et la lutte des classes qui structure la société. Donc côté foot, c'est démocratisation et professionnalisation. Exit les riches hein, qui pensent pouvoir maîtriser le ballon sur le terrain, les ouvriers viennent les bousculer. En fait, The English Game s'impose vraiment comme une fresque historique basée sur une histoire réelle. Hein. Fergus Suter a été un immense joueur de foot, faisant la part belle aussi à une forme de romanesque avec son lot de rencontres amoureuses. En clair, si vous n'aimez pas le foot, ne boudez pas cette série Netflix parce qu'encore une fois, le sport n'est que le décor de cette fiction co-créée par Julian Fellowes qui est à l'origine de Downton Abbey. Alors c'est pas du même niveau que Downton, les moyens de production notamment sont moindres, mais vous allez retrouver l'esprit de la série britannique.
Julian Fellowes, qui doit plutôt s'appeler Julian Fellows, vous embrasse,
pardon,
Eva.
Et on finit
une nouvelle fois avec un petit bonus.
Oui, un petit bonus avec dans l'ordre une parodie coronavirus d'un tube de Guy Marchand, la voix de Fabrice Luchini et la musique de Jean-Louis Aubert.
Confiné, on était tous les deux confinés dans l'appartement toute la journée.
Ce droit à personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal François.
Florestine, Florestine, Florestine.
Fabrice Luchini est à retrouver sur Instagram et Jean-Louis Aubert, c'est quasiment tous les soirs en Facebook Live. Ne vous privez pas de ce petit plaisir.
Eva, d'habitude, votre chronique s'appelle 17 minutes de gagné. En ce moment, elle devrait s'appeler 47 ou 67 ou 127 minutes de gagné. Je ne sais plus, on ne compte plus. Merci Eva.
Europe 1.
À suivre, la crise économique pourrait être, d'après les experts, encore plus grave que la crise sanitaire. Le CAC 40 a chuté de 35%, comme le disait prophétiquement Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure.
C'est un cauchemar, Thérèse.
Mais au fait, qu'est-ce que le CAC 40? Comment ça fonctionne? Quelles conséquences concrètes pour nous en cas de crack? Notre expert Rico Axel de Tarlet nous explique avec, on l'espère, la même pédagogie que la fois où il nous a expliqué la bulle dans l'immobilier.
Immobilier, caca, boudin.
L'économie pour les nuls, voire même pour les teubés, c'est juste après Big Flo et Oli. Bienvenue chez moi sur Europe 1.
Bienvenue chez moi. Que tu viennes d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça. Ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages.
J'ai déjà parlé de Bordeaux. Sur les quais, on aime appeler les jolies filles taillées comme des cannelés. J'ai vu l'étendue des vignobles à travers le hublot. Miroir, miroir d'eau, dis-moi qui est le plus beau.
Je suis passé en Normandie, j'ai vu les villes et les plages. Mais pour pas te mentir, j'ai surtout vu des vaches. J'ai vu des lions et des lionnes au cœur rugissant. Un havre de paix quand je suis passé par Rouen.
Un arrêt à Lille, c'est vrai que c'est pas la plus belle des villes. Mais sur la grande place, je me suis comme senti libre, senti petit, senti ch'ti dans le décor. Les gens étaient plus chaleureux que le temps dehors.
Je suis passé par Lyon et j'ai pas compris tout de suite. Quand je disais bonjour, on me répondait 19 la trique. J'ai traîné place Bellecour avec tous mes zonards. On m'a dit qu'à Saint-Étienne, y'a que des connards.
Faut que je te parle de Marseille, son port, ses ruelles un peu crasses. Et j'ai même pris l'accent en chantant dans le stade. Au milieu de ses grandes gueules, moi j'en menais pas large. J'ai entendu des cigales, mais pas le bruit des calages.
Je suis allé à Saint-Étienne prendre un peu l'air. On m'a forcé à enfiler un foutu maillot vert. J'ai traîné rue des Martyrs avec tous mes zonards. On m'a dit qu'à Lyon, y'a que des connards.
Bienvenue chez moi. Que tu viennes d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça. Ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Ah, ah, ah. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi.
À Brest et Rennes, je me suis senti un peu con quand les gens m'ont dit qu'ils étaient pas français, mais bretons. Des marins au grand cœur, un petit peu trop ivres, naviguant sur une mer de cidre.
Une journée à Paris et Notre-Dame m'a fait une scène. Elle m'a dit que j'étais trop lent et que nos petits accents la gênent. Elle est pressante et oppressante, elle est stressante et cruelle. Elle est blessante, elle est glaçante, mais putain ce qu'elle est belle.
Je suis allé sur une île, le volcan m'a ouvert ses bras. Et l'océan m'a chuchoté, la Réunion est là. Y'a pas de religion ou de couleur sur la photo. Une engueulade c'est aussi rare que de voir un dodo.
Tu connais pas Montpellier? La plage est tout près d'ici, on passe toute l'après-midi, place de la comédie. On prend le temps, mais viens pas croire qu'on est feignant. Des arènes de Nîmes jusqu'au palmier de Perpignan.
Je suis allé à Strasbourg, je suis revenu avec du Kouglof sous le coude. C'est fou, j'ai encore dans la bouche le goût de la choucroute. Les charmes des limites de l'Hexagone. Et j'écris cette phrase avec la plume d'une cigogne.
Bienvenue chez moi. Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça. Ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Ah, ah, ah. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi.
À Nantes, j'ai commencé un safari géant. J'ai croisé des canaris voler autour d'un éléphant. J'ai vu des kickers, des skippers, des kiffers. Le seul endroit où j'ai croisé des dealers, de tivers. Première fois encore, le choc, la terre, la mer. Au début, j'ai eu du mal avec le caractère. Sur la terrasse, les blagues des vieux m'ont fait rire. Je voulais plus partir, plus remonter dans le ferry.
Je suis né à Toulouse, forcément, je suis pas vraiment honnête.
Elle a vu mes premiers pas et m'a porté chaque seconde.
Et tu demanderas à tous ceux qui la connaissent, ils te diront que
c'est la plus belle ville du monde. Bienvenue chez moi. Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça. Ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Ah, ah, ah. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour.
Bienvenue chez moi, c'était Big Flo et Oli sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue chez moi, c'est Mathieu Noël sur Europe 1 qui vous dit...
On vient à la maison, il y a le printemps qui chante.
En guise de Claudette, elle est à la fois ma complice, ma co-animatrice, ma muse, mon bras droit. Comment vous vous décririez, Eva?
Très très bien foutu.
Non, mais je veux dire professionnellement. Mais bon, passons. L'équipe est sauvage, confinement jour 9, continue avec l'entrée en piste d'un journaliste qui tente, depuis la buanderie où sa femme l'a enfermé, de rester concentré. Mais ce n'est pas simple, en témoigne son dernier papier dans l'émission.
Édith Cresson, qui fraîchement nommée en 1991 première ministre par Frédéric Mitterrand. Ah là là, encore une bourde.
Jean-Paul de Tarlet, il y a quelques jours, vous nous disiez que la chute de la bourse, vous n'en aviez, je cite vos mots, hein, rien à cirer. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, que le CAC 40 chute de 35%, ça n'a pas d'impact réel sur nous ?
Non mais alors, il était convenu, et c'est un ordre de Eva Rock, que je c'est passe vrai. Une petite leçon d'économie.
Exactement.
Et le cahier des charges, c'était le CAC 40 Kézako. Depuis quand existe... Alors, le professeur va interroger ses élèves. Depuis quand existe le CAC 40 ? À votre avis, Eva ?
Ah, moi, j'en ai aucune idée. Ah, mais vraiment,
je vais vous donner un petit indice de votre niveau. À l'époque, Roman d'amitié d'Elsa était numéro 1 du top 50.
Ah, 1986.
Pas loin.
Non, pas de nom, avant.
88.
Ça date du 1er janvier 1988.
C'est assez récent.
Oui, c'est assez récent. Oui. Alors, justement, vous allez comprendre pourquoi c'est si récent. Que veut dire CAC 40 ? Alors, 40, c'est qu'il y a 40 entreprises dedans. Mais CAC, qu'est-ce que ça veut dire ? CAC.
Alors, ça.
Cotation pour... assistée en continu. Car quel était. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er janvier 88 ? C'était la fin de la criée. La bourse est devenue est passée à l'informatique. Ça a été la fermeture du Palais Brongniart. Et donc, on a créé ce nouvel indice, cotation assistée en continu. Ça veut dire assistée en continu, ça veut dire que c'était informatique, vous voyez. Voilà. Donc, le
CAC 40 c'est un premier point qu'on ne... pas personnellement,
je ne connaissais pas du tout.
Ah, mais vous allez apprendre plein de choses avec moi.
Hein.
Bah
oui.
Avant les actions se vendaient comme le poisson à la criée.
Exactement.
Exactement, autour de la corbeille, vous savez, là où la politique de la France ne se faisait pas, dixit le général de Gaulle. Ah, j'en ai sous la semelle, hein.
Ah, je vois que là, vous êtes dans votre domaine, vous êtes dans votre élément, mon dauphin d'or.
Alors, vous voulez une confidence? Pourquoi je sais si bien ce qu'est le CAC 40 ? Parce que pour mon entretien d'embauche à BFM Business en 1994, mon employeur de l'époque, la seule question qui m'est posée, c'était « Qu'est-ce que le CAC 40 ?»
Voilà, ah, c'est incroyable. Donc, ouais.
Voilà. Vous devez pouvoir dérouler.
Voilà, exactement. Alors le CAC 40, donc 40 entreprises, à l'époque, alors c'est vrai que depuis, à l'époque, ce n'était pas les mêmes. Il n'y a que, si on prend le CAC 40 du 1er janvier 88, il n'y en a que 12 de l'époque. Il y avait Carrefour à l'époque, il y avait Air Liquide, déjà Danone, Lafarge, L'Oréal, etc. Mais il y en avait 28 autres
qui
ont disparu. Alors justement, je vais vous les citer, vous allez voir, ça va vous rappeler le Jean-Pierre Gaillard des années 80.
Ah oui,
je
ne
sais pas si vous vous souvenez.
Mais bien sûr.
Les valeurs de notre première liste, Chargeur, Navigation Mixte, plus 3%, Rhône-Poulenc, moins 2%, UAP, plus 1%.
Ah oui.
Eh oui, on a oublié tout ça. Progonès, ouais. Dumez, Merlin-Gérin, le CCF, vous voyez, toutes ces entreprises ont disparu.
Mais qu'est-ce qui leur est arrivé à ces entreprises ?
Oh le CCF, ça a été racheté par HSBC, Promodès, ça a été racheté par Carrefour, Eurotunnel, ça existe toujours, mais c'est plus dans le CAC 40, vous savez, avec les déboires qu'ils ont eu, etc. Vous voyez, Rhône-Poulenc, c'est devenu Sanofi. Il y en a eu beaucoup de fusions là-dedans. Hein. Alors aujourd'hui, le CAC 40, d'ailleurs, alors aujourd'hui,
il est dominé par qui, oui, par quelle
entreprise ?
Alors, elle est dominée
par ce qu'on appelle les calls. Alors le call, c'est quoi ? C'est K-O-H-L.
Ah oui, vous nous l'aviez déjà expliqué, ça. C'est toutes les entreprises du luxe, là.
C'est les quatre vedettes du CAC 40. Aujourd'hui, le CAC 40, vous savez, c'est un CAC luxe. Hein. C'est quoi ? C'est Kering, le CAC.
Ah, Kering, pas Kering, Kering.
Voilà,
oui.
Donc c'est Yves Saint-Laurent, Balenciaga. Le O, c'est L'Oréal. L'Oréal qui vaut 133 milliards en bourse. Hein. Le L... C'est LVMH, qui est la plus grosse entreprise du CAC 40, 171 milliards d'euros. Si vous voulez, c'est plus que la dette de la Grèce, hein. Vous voyez, cette boîte L'Oréal à elle seule. Hein. C'est-à-dire que Bernard Arnault, pour faire simple, il pourrait rembourser la dette de la Grèce.
La dette de la Grèce.
voilà, donc ça, c'est la plus... Avant, c'était Total. Hein. Et le dernier, c'est K-O-H... oui, c'est le H de Hermès que j'ai oublié.
Mais Axel de Tarlet, là, avec la chute de la bourse, là, on parle d'une chute de 35%, c'est sur quel type d'entreprise, quelles sont les entreprises qui ont perdu énormément ?
Alors, il y a Renault qui a énormément perdu. Je voyais ce matin que Renault ne valait plus que 4 milliards d'euros en bourse. Je vous ai dit, hein, LVMH, ça vaut 170 milliards. Vous vous rendez compte, Renault ne vaut plus 4 milliards. D'ailleurs, c'est l'une des craintes du gouvernement, c'est que demain, je sais pas moi, Toyota fait 9 milliards de bénéfices par an. C'est-à-dire qu'avec 6 mois de bénéfices, Toyota peut racheter Renault. Je sais pas si vous voyez l'exposition ou la vulnérabilité de nos entreprises après une telle chute de la bourse. C'est pour ça que le gouvernement a dit, mais moi,
la chute de la bourse n'impacte pas Toyota, par exemple. C'est bizarre, on a du mal à comprendre pourquoi certains seraient épargnés.
Si, sûrement que Toyota est aussi... Alors, vous avez raison, toutes les entreprises sont logées à la même enseigne et chutent de la même façon. Il n'empêche, certaines chutent tellement, je vous cite Renault, qui c'est chutent tellement qu'elles deviennent à la portée d'un prédateur étranger. Mmh. 4 milliards, c'est quand même pas grand-chose pour une boîte. Hein. Elle a ça en trésorerie. Air France vaut plus qu'1,8 milliard. Alors vous me direz, je ne sais pas s'il y a beaucoup de candidats pour acheter Air France. Ouais. Mais Renault, c'est un bel outil industriel, c'est une belle marque. Et donc c'est pour ça que le gouvernement dit, attention, il est prêt au pied levé, à nationaliser les entreprises s'il voyait que certains prédateurs venaient à lorgner un peu trop près sur des fleurons français qui aujourd'hui sont vulnérables du fait de la chute de la bourse.
Pas mal, eh bien, merci.
Ah oui, carrément.
Merci beaucoup, Axel de Tarlet. Et pour finir sur une note positive, une touche d'espoir, je crois savoir qu'avec Madame de Tarlet, une fois que vous aurez mis à plat l'histoire de la passade avec Alison Wheeler, vous avez un très beau projet pour l'après-confinement.
Un tour d'Europe du Kama Sutra.
Ça, c'est beau. Beau projet, Axel. Eh bien, tous mes vœux de bonheur.
Europe 1.
Les études psychologiques le prouvent, quand le présent n'est pas rose, il faut non seulement se projeter vers l'avenir, mais également se remémorer le passé dans ce qu'il avait de plus rieur. C'est pourquoi dans l'équipe Sauvage, on vous propose chaque jour de redécouvrir l'interview d'une personnalité, d'un artiste qu'on avait reçu ici et que j'avais interviewé avec brio, mais hélas aussi avec Eva Rock, qui avait toujours ce don de m'interrompre en plein milieu d'une question pour en poser une plus pertinente, comme la fois où avec Jérôme Commandeur, elle s'inquiétait que son nom comporte trop de lettres pour la façade de l'Olympia. Qu'est-ce qu'il y a, Eva? Et depuis le début,
depuis le début
de cette émission, je ne peux pas poser une question. Eva agite les bras comme ça. On a l'impression qu'elle est sur la Roissy.
Je me demandais si Commandeur, ça rentrait en lettres rouges.
C'est pour ça que vous nous avez interrompu.
Oh mon Dieu, je suis désolée.
À tout de suite pour un autre beau souvenir, Eva, la désopilante après-midi qu'on avait passé avec Manu Payet. À tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Se confiner, oui, mais sans oublier de se gondoler. Et non pas de se congoler, comme je l'avais écrit avant que le correcteur de Google ne me sauve la mise. Vous écoutez l'équipée sauvage. 2 heures d'un combat journalistique désormais dématérialisé au service de votre bonne humeur en duplex de chez eux. Nos chroniqueurs font tout pour vous changer les esprits et c'est aussi l'occasion chaque jour vers 6h-20 d'ouvrir l'album souvenir de l'équipée sauvage. Innombrables et chatoyants souvenirs en compagnie des plus brillants esprits contemporains, Éric Orsenna, François Baroin, Daniel Pénac ou encore Alessandra Sublet qui avait eu des propos très forts et très beaux sur le dépistage du cancer de la prostate.
Pour un garçon, c'est pas facile d'aller se mettre un petit doigt dans les fesses quand même.
C'est bien dit. Dans cette valse des stars, on avait l'embarras du choix, mais comme c'est de rire dont nous avons le plus besoin en ce moment, on a choisi avec Eva de vous diffuser notre interview de Manu Payet le 10 septembre dernier. Manu Payet, vous avez en effet commencé votre carrière à la radio, pas n'importe laquelle, Énergie Réunion. Quand vous revenez dans un studio comme ça, ça fait un pincement au cœur, vous vous dites, oh là, heureusement que j'ai raté ce métier.
Les deux, pour être très honnête, les deux. Je suis en train de faire ce pour quoi j'ai été initialement formé, c'est-à-dire de la radio, que j'ai fait de manière à peu près correcte et honnête, en tout cas, pendant des années, pour vous parler de ce pourquoi je pense que je suis un peu né quelque part, c'est-à-dire la scène. Donc c'est super.
Sur la période radio, votre période radio, Manu, il y a quand même une anecdote fabuleuse que je ne me lasse pas d'entendre. Quand vous étiez animateur à La Réunion, donc une anecdote qui en dit long sur votre rapport au sommeil. Vous êtes quelqu'un qui dort beaucoup, du coup pour présenter une matinale, c'était pas idéal en fait.
Oui, enfin je suis quelqu'un qui dort beaucoup, je dors plus mon ami, ça y est, j'ai fait un film et après j'ai eu un enfant. Alors, déjà, vous avez derrière nous, mais alors vraiment, c'est-à-dire que même quand elle n'est pas à la maison, je ne dors plus, c'est terminé tout ça. En revanche, je suis toujours en retard.
Et oui.
Et ça, je tiens à mettre l'accent là-dessus.
Parce à la matinale aussi.
Ah bah la matinale, en retard, c'était le prénom. C'est-à-dire que j'ai réussi, et là, c'est vraiment un exploit que j'ai fait, à ne jamais me faire virer d'une antenne, alors que pourtant, je suis allé à mon micro en retard quasiment presque tous les jours.
Vous arrivez en retard pour la matinale ?
Ah oui, très souvent. Mais le problème, c'est que quand tu animes sur une locale, et j'embrasse tous les gens qui m'ont donné ma chance à La Réunion, j'embrasse Sébastien Follin qui m'a appris à faire de la radio, quand tu animes sur une locale, c'est toi qui as la clé de la radio. Tu dis bonjour à personne en arrivant. Tu vois, ça c'est vous, les nantis, les bourgeois. Tu comprends, des antennes nationales, des grandes radios périphériques qui arrivaient et disaient bonjour, ça va, bien dormi, comment va le petit? C'est vous qui faites ça. Moi, j'arrivais et je devais lever la grille déjà, tu vois. Parfois même, j'étais à l'heure, mais le fusible de la grille qui avait pété. Je rappelle qu'on était dans une région parfois cyclonique et parfois la grille se levait pas. Je pouvais même pas dire aux gens à l'antenne qu'on était en alerte rouge.
Sur l'affiche du spectacle, une affiche, alors je pense que tout le monde a vu. Tout le monde a vu cette affiche de Manu Payet en Emmanuel. Emmanuel, le film érotique des années 70, en position assez érotique sur, sur ce magnifique fauteuil en rotin. Ça, c'est venu comment? C'est un délire de fin de soirée, l'idée du fauteuil d'Emmanuel?
Non, en fait, c'était... Montrez-la à Anissé, qui la ramène un peu. Regardez-moi ça, Anissé. Regardez la gambasse. Il n'y a pas de retouche. Hein. Zéro retouche.
Vrai, pas de Photoshop.
Je vous jure que c'est vrai.
Non,
pas de Photoshop.
Poils dessus.
Et, non, il y a encore les poils. C'est la lumière qui les cache un peu. Non, ça, c'est l'affiche que je voulais faire.
Twitter.
S'il vous plaît, merci beaucoup. C'est l'affiche que je voulais faire pour mon premier spectacle.
On vous l'avait refusé?
Non, j'ai pas eu les couilles.
Ah, voilà.
Non, j'ai pas eu les couilles.
Là, on les voit pas non plus.
Ouais, non, c'est vrai, non, mais là.
Franchement, on vous en parle beaucoup de cette affiche.
Ouais, c'est super. C'est super. En fait, nous, moi, je voulais faire une affiche aussi qui change un petit peu des affiches un peu plus communes de spectacles où t'es obligé de montrer ta gueule avec une cravate et un micro pour dire venez, ça sera bien. Tu vois, je suis content d'être là, je sais pas quoi. Je voulais faire quelque chose de différent, non pas parce que les autres sont pas bien, mais pour proposer autre chose parce que comme je savais que ça allait être affiché partout, je me suis dit, proposons un truc. Que les gens se marrent dans la bagnole en allant bosser le matin. Moi, je me souviens très bien de cette pub pour un shampoing où le lion s'était fait un brushing. La lionne, vous souvenez?
Ça nous ramène loin, ça
m'a ouais, c'était début 2000. Ouais. C'est quand j'allais bosser à la radio, je voyais ça le matin. Et je me disais, putain, mais qu'est-ce que c'est bien de voir ça le matin, bordel. Et l'assurance de cet animal, tu sais, avec ce truc de, bah oui, voilà. Et quoi? Alors quoi? Qui va dire quelque chose? Voilà, on a le droit de prendre soin de soi. Y compris dans la savane.
C'est vrai que c'était bon.
Et je me suis dit, voilà, il faut qu'on arrive à être aussi con que ça.
Le comédien et humoriste Manu Payet, pour qui j'ai une tendresse que je qualifierais de générationnelle. En effet, nous avons connu tous les deux une même jeunesse, loin des applis de rencontre et d'internet. Une jeunesse que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître. Une jeunesse qui restera dans l'histoire comme celle dite des pages lingerie de la redoute. Et je peux vous dire que comme Manu, j'ai grandi dans une famille sévère qui n'aimait pas que je m'isole trop longtemps avec la redoute ou les trois Suisses.
Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand Manu est dans la chambre.
Toute une époque. Vous avez connu ça aussi, hein, Manu?
Ah bah j'en parle dans le spectacle, bien sûr que j'ai connu. C'est-à-dire que dans celui du printemps, il n'y avait pas les jouets. Il y avait quand même les pages lingerie. Et non, et ma mère ne comprenait toujours pas pourquoi on était content de le recevoir. Elle dit, c'est pas la peine de sauter au plafond comme deux idiots. C'est celui du printemps, il n'y a pas les jouets. Je crois que vous êtes excités comme ça, les deux. Et mon frère, il allait d'abord aux toilettes faire du repérage, d'abord pour son grand frère. Et puis après, il ressortait avec le catalogue, avec son doigt dans sa page préférée. Il me le tendait, page 330.
Avec cette voix chevrotante de l'ado. Europe 1. À suivre, plus que nous fournir chaque jour une recette destinée à épater nos proches au dîner, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, a également influé par son talent sur la carrière de plusieurs de nos invités, dont par exemple Shuriken et Akhenaton, qui ont officiellement annoncé leur décision de se retirer du rap game après avoir entendu le flow étourdissant de celui que, évoluant à la frontière du hip-hop et de la popote, on a surnommé Snoop Doggy Bag.
Et je mange l'aioli. Avec de l'huile, l'aioli doit se monter.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Olivier Pouls, le booba des fourneaux, le charisme du frigo, arrive juste après Renan Luce, les voisines sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà habillée. Au vent sur les balcons, c'est un
plexiglas. Je maudis les méninges, inventeur du sèche-linge. Plus de lèche, vitrine à ses caches, poitrine que je séchais. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
Voisine, c'était Renan Luce sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous aimiez la confiture, la confiserie, le confit de canard. Grâce à lui, vous allez aussi aimer le confinement. Oui, l'heure est venue de retrouver notre expert gastronomique, le sémillant Olivier Pouls, qui est retranché dans sa maison de campagne en Bourgogne, apprend au jour le jour à consommer différemment, à économiser les produits de première nécessité, et ce, pas seulement en cuisine. Cessez par exemple d'acheter des préservatifs, bricolez-les vous-même.
En boyau de porc, exactement.
Bien sûr, c'est le bon sens. bonjour Olivier Pouls.
Bonjour mes amis,
le pire, c'est que j'y ai
comment
pensé
allez-vous
hier.
Attendez Olivier, parce que là il y a eu une vanne, et Evan vous a dit qu'hier, elle a quand même songé.
Mais
à
oui.
faire des préservatifs en boyau de porc, c'est-à-dire.
Non, j'ai pas pensé à faire ça, mais quand vous avez parlé, quand vous avez parlé de boyau de porc avec avec Pouls hier, j'ai pensé à ça. Voilà.
Vous récupérez la peau des saucissons ou des boudins alors. En fait.
C'est ça. Ouais, exactement.
Faut pas gâcher. Alors, Olivier Pouls, le confinement, effectivement, ça pèse un peu sur nos nerfs, mais c'est le moment idéal pour cuisiner. Alors, on n'a pas toujours des produits exceptionnels sous la main, mais toute la semaine, nos auditeurs vous lancent des défis avec des produits qu'ils ont dans leur frigo. À vous de leur trouver une recette étonnante.
Oui, alors le défi du jour, c'est de Marie Jour de la Marmotte. Il s'agit de boursin, de pâte brisée et d'œufs. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien bricoler avec
quiche,
tout ça?
Une quiche.
Bah, la facilité, ce serait évidemment de faire une quiche au boursin. Ça ne mange pas de pain, on pourrait dire.
Mais je vous propose ça mange la quiche.
Un truc un petit peu plus original et un peu plus travaillé qui va prendre un tout petit peu plus de temps. Parce que du temps, on en a.
Allez-y, prenez-moi de haut.
Allons-y. Donc, on va utiliser notre pâte brisée pour faire des espèces de petites galettes plates. Donc, on prend la pâte brisée. Avec un emporte-pièce, on peut découper 3 ou 4 ronds que l'on va mettre sur une plaque qui va au four elle-même avec du papier sulfurisé hein, pour éviter que ça colle. On remet notre plaque par-dessus de manière à éviter que lors de la cuisson, même s'il s'agit de pâte brisée, elle ne devrait pas monter, mais qu'elle ne monte pas du tout justement pour qu'elle reste vraiment bien plate. Et on la met 40 minutes dans un four à 170-180 degrés. De manière à faire des petites galettes. Elles seront vraiment croquantes et croustillantes et c'est assez bon. Et ça sert de support à la préparation qu'on va faire à côté, c'est-à-dire des œufs brouillés au boursin. Alors, pour les œufs brouillés, très facile.
Oh là là, vous me vendez du rêve, des œufs brouillés au boursin.
Ouais, avec le petit côté ail et fines herbes dans les œufs brouillés, je pense que ça marche vraiment très bien. Donc, on casse nos œufs dans un ramequin, on les bat avec une fourchette, un petit peu de sel, un tout petit peu de poivre, une petite goutte de lait éventuellement, mais elle est optionnelle puisqu'on a, on a le boursin qu'on va mettre dedans un petit peu plus tard. Et puis, les œufs brouillés, pour ne pas les rater, le mieux, c'est de les faire au bain-marie. Hein. Donc, une casserole sur le feu avec de l'eau bouillante et puis à l'intérieur, une plus petite casserole dans laquelle on fait d'abord fondre de la matière grasse, on met nos œufs et on n'arrête pas de tourner, on n'arrête pas de tourner de manière à éviter que les œufs se mettent à coaguler trop fort à un moment. Et donc dès qu'on voit que ça coagule, tac, on retire, on continue à mélanger, on met nos petits morceaux de boursin qui vont fondre dans nos œufs brouillés et qui vont les parfumer et on va venir verser cette préparation sur nos petites galettes croustillantes.
Oh, c'est fort quand même.
Dire
moi, j'aime
qu'il
pas
va falloir
ça, mais...
encore attendre deux heures avant
c'est
de passer
une bonne idée,
à table.
Hein, ouais.
Bah, ça, c'est
ouais,
pour vous, mon cher non, Mathieu. Moi, je passe à table dans un quart d'heure, vous rigolez.
C'est ça. Pourquoi vous attendez 20 heures pour manger, vrai, Mathieu Noël?
Non, parce que Philippe Etchebest nous l'a dit, il faut, pour ne pas perdre la tête en confinement, il faut garder des rendez-vous fixes dans la journée. On ne va pas commencer à bouffer à 18h.
À l'apéro.
Sinon... Ouais. C'est la cata. Bon, l'apéro. Effectivement, l'apéro, toujours avec modération. Avec vous, on est toujours obligé de le rappeler. Heureusement que le CSA a d'autres chats et fouettés en ce moment que de nous écouter. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouvera samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte.
Et j'attends vos défis sur Twitter. Envoyez-moi les produits qui traînent dans vos placards et dans vos frigos. Je vous réponds demain.
Et oui, et vous aurez bien noté, chers auditeurs, que étant belge, Pouls vous attend sur Twitter et non pas sur Twitter.
C'était Délices in Extremis avec les fromages Hermitage. Rajoutez de la convivialité à votre recette avec les fromages Hermitage, du goût, du partage.
L'équipe sauvage confinement jour 9 touche à sa fin. C'est parti pour au moins 6 semaines comme ça les amis. Alors j'espère chers auditeurs que vous êtes bien confinés. Certains en quittant trop précipitamment les grandes villes découvrent peu à peu les inconvénients de la vie au champ.
Vous êtes vraiment des compagnons très agréables.
Est-ce que tu vas nous raconter que tu te sens bien dans ce trou?
Et pourquoi pas? Je respire, l'air est pur, tout est calme, je me détends.
Parce que tu trouves ça calme toi?
Ah oui.
Ah merde alors, avec tous ces oiseaux à la con ils trouvent ça calme.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être. Il commence à me taper sur le système, ces oiseaux.
Et oui, les parigots, il fallait y penser avant. Courage quand même à tous. Pour nos journalistes, c'est l'heure du quitte ou double. Ils ont 10 secondes pour nous expliquer pourquoi leur chronique était la meilleure. Nicolas Caro.
Oui, bah parce que je vous ai quand même fourni...
Ah, vous avez fermé la porte. Ah,
oui, vous avez fermé la porte.
On entend que votre fille a encore déboulé pour jouer de la guitare et vous lui avez mis une droite. On a entendu. Hein. Oui.
Donc je vous ai fourni 30 heures justement pour occuper vos enfants. C'est pas mal, quoi. Moi, je cherche que ça en ce moment.
30 heures de programme. Oui, c'est ça. Vous allez à l'efficacité. Axel de Tarlé, pourquoi devrions-nous voter pour
vous ce soir? Franchement, c'était ma meilleure chronique. Hein. Arrête, écoutez, là, sur les cartes. Là, je vais tout donner. Hein. Oui, là, si je gagne pas, je rends mon tablier.
Vous dites que c'est votre meilleure chronique, mais pouvez-vous vraiment être votre propre baromètre?
Ah,
je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Mathieu Charrier.
Axel a dit si je gagne pas je rends mon tablier, je pense qu'il faut en tenir compte. Pour ma part, qui n'a pas un Astérix dans son salon, dans ses toilettes, dans son grenier? Donc je pense qu'on a rendu hommage à un grand monsieur et que pour ça il faut évidemment saluer cet hommage.
Et surtout vous avez pris pas mal de trucs que même moi j'ignorais sur Uderzo alors que je suis un grand fan d'Astérix. Frédéric Michel, pourquoi voter pour vous ce soir?
C'est simple hein, Mathieu, parce que rire c'est le meilleur médicament, rire c'est la vie et comme l'ont écrit de grands auteurs, ça fait rire les oiseaux, chanter les abeilles,
oh
ça chasse les nuages et fait briller le soleil.
Je vois que monsieur est poète. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Alors attention, je me réunis, je convoque mes neurones à un grand rassemblement et nous allons voter avec tous mes neurones, c'est-à-dire mes 76 neurones. Nous votons pour Mathieu Charrier. Car j'ai bien aimé cette chronique sur Uderzo qui m'a fait découvrir des choses sur cet illustre personnage. Eva Rock, vous votez vous aussi désormais?
Je sais pas là, c'est dur hein. J'ai vraiment appris plein de trucs avec la chronique de Mathieu Charrier, donc je vote aussi
Mathieu
pour
Mathieu Charrier, qui est devant, mais vous le savez, confinement oblige, les règles, vous le savez, ont changé. Notre réalisateur en régie a lui aussi le droit de voter. Romain, pour qui votez-vous?
Mathieu, je vais donner mon point aujourd'hui à Mathieu Charrier.
Mathieu Charrier qui a 3 points, Mathieu Charrier qui a déjà gagné l'émission. C'est incroyable, avant même le vote du public. Pour qui avait voté le public?
Ah bah attendez. Mais alors, victoire écrasante du public pour Mathieu Charrier.
Allez. C'est tellement dur pour Axel de Tarlé qui va donc vendre son tablier.
En même temps, j'aime tellement Astérix que même moi, je...
J'aime tellement Astérix que même moi j'aurais voté pour Mathieu Charrier.
Aujourd'hui, il remporte la 141e journée de l'équipée sauvage. Je remercie mes petits confinés du jour, Eva Rock, Nicolas Caro, Frédéric Michel, Axel de Tarlet, Mathieu Charrier, Olivier Pouls, Romain Causeur en régie. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.